Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Moussi.
Sur RMC, salut à tous, c'est parti pour deux heures de live dans l'Intégral Sport jusqu'à 15h avant de laisser la main à Simon Dutin pour suivre le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Max Verstappen en pole position et une fois n'est pas coutume, un grand favori pour s'imposer dans les rues de la Principauté. Fernando Alonso est en embuscade, tout comme Esteban Ocon, troisième sur la grille de départ. Le Français va-t-il décrocher son premier podium de la saison et Charles Leclerc, sixième, va-t-il briller devant son public? Voici les principaux enjeux qu'on va vous détailler avec Jean-Luc Roy tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est aussi le grand début du tableau principal de Roland Garros qui, pour succéder à Rafael Nadal, grand absent de cette édition 2023, Djokovic et Alcaraz dans la même partie de tableau, au moins trois Français au deuxième tour, des revenants comme Lucas Pouille et Benoît Paire, alors que chez les dames, Caroline Garcia va tenter de faire mieux que son huitième de finale en 2020. Tous les enjeux dans quelques instants avec notre consultant Florent Serra. Et puis, on reviendra aussi sur la folle soirée de Ligue 1 qu'on a vécue hier soir sur RMC. Le PSG champion, Lens assuré de terminer deuxième. Pour le reste, suspense total dans la course à l'Europe, et au maintien. Nantes va-t-il réussir le miracle de se sauver lors de la dernière journée? Élément de réponse tout à l'heure. Allez, c'est parti pour l'Intégral Sport. L'Intégral Sport qui débute tout de suite, direction la Porte d'Auteuil.
RMC Roland Garros 2023.
RMC se met à l'heure de Roland Garros dès ce dimanche avec un dispositif exceptionnel. Vous ne manquerez rien du Grand Chelem parisien sur notre antenne. Et nouveauté, cette année, RMC lance sa radio digitale. Tous les jours, les meilleures affiches du tournoi seront commentées en intégralité sur l'application RMC. Vous retrouverez aussi tous les résultats, les dernières infos, les interviews des joueurs dans des flashs actualisés toutes les demi-heures. Pour ça, rien de plus simple, téléchargez l'application RMC et vivez au plus près l'expérience Roland Garros. Le double principal débute aujourd'hui et pour en parler, notre consultant Florent Serra est avec nous. Salut Florent.
Bonjour, bonjour à tous.
Et évidemment, l'incontournable Eric Salio. Salut Eric.
Salut Florent, salut à tous.
Et tu as en plus, en même temps, un œil sur le match de notre Français Constant Lestienne en ce moment, qui est en train de réaliser une grosse performance face à Karen Khachanov.
Ouais, c'est assez incroyable ce qui se passe sur le cours Suzanne Lagan, puisque Constant Lestienne est en train de rendre dingo Karen Khachanov, 6-3, 6-1, 2 partout dans le troisième set. Alors, Florent, faut le décrire un peu, Constant Lestienne. C'est son premier Roland, à 31 ans, mais il a un jeu très particulier. C'est pas pour rien qu'on le surnomme le magicien.
Ouais, il a un jeu de contre avec beaucoup de variations. Parfois, est capable de remettre inlassablement la balle, un peu comme pouvait faire côté revers Gilles Simon, et puis d'un coup, vous glissez une amortie qui sort de nulle part, ou un revers le long de la ligne.
C'est le roi de l'amortie. Ouais, il n'en peut plus. Il n'en peut plus, ce mec. Il dit, mais c'est qui ce mec? Parce qu'il le connaissait pas, bien sûr. Et donc, on est peut-être à quelques minutes, Flora, d'un monumental exploit de Constant Lestienne.
Est-ce qu'il va bien, le français? Parce qu'on a vu un petit arrêt médical tout à l'heure, au niveau de la santé, comment ça va?
Écoute, c'est un garçon qui a eu un printemps compliqué avec pas mal de blessures justement, et il a des problèmes récurrents au mollet. Alors je sais pas si c'est le mollet qui était traité par le kiné, j'avais du mal à voir, on n'est pas sur place, on est sur le central, mais il faut effectivement avoir un œil très particulier sur sa forme, parce que si jamais il a un pépin au mollet, ça peut devenir très compliqué, et à ce moment-là la remontada serait envisageable.
On va suivre évidemment avec attention ce match. Messieurs, on va quand même revenir sur l'ensemble de ce Roland-Garros qui débute aujourd'hui. Et déjà, Florent, on a envie d'avoir tes impressions. Un Roland-Garros qui va débuter pour la première fois depuis 18 ans sans son roi Rafael Nadal forfait. Qu'est-ce que ça te fait? C'est quand même assez incroyable.
Hein. Oui, c'est incroyable. Après, c'est vrai que Rafael Nadal prend aussi de l'âge. Donc pour moi, même s'il avait participé à ce tournoi de Roland-Garros avec le peu de matchs qu'il avait aussi, ça aurait été plus compliqué quand même que les autres années, faut pas le nier, je pense. Là c'est sûr qu'il est pas là, donc tout le monde l'attend, mais il va falloir faire sans lui, comme disaient très justement les joueurs aussi. Le tournoi continue, donc ça rend le tournoi également très ouvert. On a plein de joueurs qui peuvent l'emporter. Chacun a eu en plus sa petite surprise, sa petite défaite qui rebat un petit peu les cartes avant le début du tournoi. Donc ça reste un Roland, c'est le plus ouvert depuis quelques années.
Ouais, et c'est pas pour nous déplaire, ça aussi, Eric. C'est vrai que parmi ses favoris, du coup, maintenant, qui se dessinent, on parle beaucoup de son compatriote espagnol, Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, quart de finaliste la saison dernière. Est-ce qu'il peut reprendre le flambeau? Est-ce que toi, tu y crois, Eric?
il fait partie des favoris, hein, indubitablement. Maintenant, il a été surpris à Rome d'entrée par un inconnu. Donc ça veut dire que c'est pas du coup sûr, quoi. C'est un garçon qui a un talent extraordinaire, on l'a vu à Madrid, mais il y a un côté fragile encore parce qu'il est jeune. Et puis n'oublions pas que l'an passé à Roland, ça s'était pas super bien passé. Il avait eu un deuxième tour très compliqué contre Zverev pendant 2-7, il était passé à côté. Donc il est favori, il est numéro un mondial, mais justement, je pense que ça peut être une pression supplémentaire pour lui, à voir comment il va la gérer tout au long de cette quinzaine.
Florent, c'est pas facile aussi quand on arrive avec cette étiquette-là de numéro un mondial. On fait partie des favoris et puis aussi on est souvent associé à Rafael Nadal malgré tout. Ça fait beaucoup de pression aussi pour le jeune espagnol.
Oui, il y a beaucoup de pression, mais déjà il y en a eu lorsqu'il est devenu numéro un mondial. Il a fait aussi beaucoup de choses extra tennis et il a fallu digérer un petit peu cette étiquette de numéro un mondial. Et comme je le disais, il y a la surprise de tout à l'heure aussi à Rome où il perd contre un joueur qui était en qualif ici, le joueur hongrois Marochan. Mais il est attendu. Et là où je me méfie chez Carlos Alcaraz, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure dans son jeu. Il se donne du premier au dernier point, même quand une balle est injouable physiquement. Il y va à fond et il dépense peut-être parfois un peu trop d'énergie qu'il ne devrait. Il pourrait gérer un petit peu plus. Pour moi, ce qui sera important, c'est qu'il franchisse cette première semaine plutôt tranquillement pour pouvoir pousser et tout donner dans la deuxième semaine quand les matchs devraient être un peu plus accrochés. Mais il peut très bien avoir des matchs compliqués dans cette première semaine. C'est là où il va falloir bien gérer cette quinzaine et où il a peut-être un petit peu moins d'expérience que certains autres joueurs.
Ouais, Eric, la magie de ce tirage au sort à des parties de tableau aussi font qu'il se retrouve dans la même partie de tableau justement que Novak Djokovic. Les deux pourraient donc se retrouver en demi-finale, alors que c'était aussi un duel qu'on aurait aimé voir, qu'on aurait pu retrouver en finale, tout simplement, Eric.
Bah, c'est vrai qu'il y a 2-3 mois de cela, on nous aurait dit Djokovic et Alcaraz peuvent se retrouver en demi, j'aurais pris les gens pour des fous. Parce que c'est vrai qu'au classement, ils dominaient largement, ils étaient 1-2, 2-1. Et puis il y a eu la comète Medvedev qui a rebattu les cartes, puisqu'en remportant Rome, il est passé devant Djokovic à l'ATP. Et maintenant, c'est la faute à Antoine Dupont. Hein. C'est Antoine Dupont qui a tiré le jeton Djokovic jeudi. Donc s'il a quelque chose à dire à Djokovic, il a voir Antoine Dupont, voilà. Le meilleur rugbyman du monde en termes de gabarit,
bon
je pense qu'il y a photo. Hein. Je pense qu'il y a photo.
Ouais, mais il y a de la puissance quand même chez Antoine Dupont. Hein.
Ouais, mais je pense qu'Antoine il peut l'emporter au bras de fer.
Ouais, effectivement.
Non, mais c'est vrai que ça change tout. Ça change beaucoup de choses pour Djokovic parce que il peut s'attendre à 4 derniers jours chaud bouillant. Quoi, parce qu'imaginez qu'il soit en demi le vendredi contre Alcaraz, que ce soit un match d'anthologie comme on en a souvent eu ici à Roland, et que 2 jours plus tard il faille revenir sur le central pour aller chercher le titre contre un gars qui aurait peut-être été plus frais. Oui, ça peut jouer. Antoine Dupont a peut-être fait basculer ce tour de Roland-Garros.
On est avec Eric Salo et Florent Serra en direct de Roland-Garros. C'est le grand début du tableau principal aujourd'hui dans le Grand Chelem parisien. On évoque les possibles successeurs à Rafael Nadal, forfait on vous le rappelle. Florent Djokovic, il entame justement ce Roland à la 3e place au classement ATP, battu la saison dernière en quart par Nadal, saison en dents de scie aussi pour le Serbe. Comment tu le vois aborder ce Roland-Garros?
Moi je le vois plutôt bien. C'est vrai qu'il a moins de rythme, il a moins fait de match que les autres joueurs, mais parce qu'il n'a pas pu aussi jouer les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami parce qu'il n'est pas vacciné. Il a entamé sa saison sur terre un petit peu plus tôt. Il n'a pas super bien joué sur les 250 de Banja Luka. Il a aussi un petit peu le coude qui vient le titiller, mais je suis moins inquiet pour Roland Garros. Déjà, j'ai vu de bonnes choses sur le Masters 1000 de Rome, même s'il perd en 3-7 contre Holger Rune. Là, on va passer en 5 manches. Et puis, dans la tête, il a la volonté de passer devant Rafael Nadal avec les titres du Grand Chelem. Il en veut 23. Il va aller le chercher. Pour moi, c'est cette année qu'il peut le faire. Donc, je pense que ça va vraiment, vraiment le motiver. Et il va tout faire pour gagner ici. Et contre Holger Rune, j'ai vu qu'à la fin du match, perdu pour perdu, il essaye aussi de trouver des solutions, de lâcher un peu son jeu. Mais je pense qu'il va les trouver à Roland-Garros. Donc je ne suis pas spécialement inquiet, même s'il n'a pas énormément joué avant ce Roland-Garros.
Ouais, Eric, triple vainqueur à Roland, Novak Djokovic. On en oublie presque parfois que finalement, la terre battue, ce n'est pas sa surface de prédilection non plus.
Non, enfin, il est bon partout, mais c'est vrai que il a un recours extraordinaire sur dur. À Wimbledon, ce sera quoi qu'il arrive le favori. C'est la surface qui lui demande le plus de travail. C'est pour ça que je pense que je partage l'avis de Florent. Je pense qu'il a eu le temps de se préparer. Vous avez noté quand même qu'il a pas voulu jouer Madrid pour s'entraîner chez lui dans son académie à Belgrade. Il n'y a pas d'affolement à avoir si vous êtes fan de Novak Djokovic. Il a tellement d'expérience, il a quand même autour de lui un mec comme Goran Ivanovic, bon, qui connaît un peu le métier. Donc ça va monter tout doucement en puissance. Maintenant, on le sait, les premiers tours sont piégeux. Regardez, il y a un favori là qui est sur le central, Stefanos Tsitsipas. Il a été breaké quasiment d'entrée par Jiří Veselý, le Tchèque. Il est mené 4-3. Donc C'est un tournoi qui commence, il y a toujours un peu de nervosité, donc faudra bien gérer son entrée en lice. Djokovic, il jouera demain contre l'Américain Alexander Kovacevic. Donc voilà, je ne suis pas inquiet, mais c'est vrai que la deuxième semaine peut être ardue pour le Serbe.
Alors Florent, on a parlé des favoris de ce tournoi, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz notamment. Est-ce que tu en vois d'autres? On pense à Daniil Medvedev, Holger Rune dont on a parlé aussi. Qui pour toi qui font partie, on va le dire au pluriel, des favoris dans ce tournoi?
Oui, je mettrai deux wagons. Un premier avec Medvedev qui disait toujours « je n'aime pas la terre ». Il avait même écrit sur la caméra à Madrid l'année dernière. Il avait finalement gagné le match. J'adore la terre. Hein, on s'en sait très
on
bien.
On change vite d'avis.
C'était ironique. Il a progressé dans la glissade, dans la couverture encore du terrain. C'est quand même assez fort ce qu'il fait. Et puis la confiance d'un premier titre à Rome, pour moi, il fait également partie des favoris avec Carlos Alcaraz, dont Eric parlait bien tout à l'heure et dont on parlait très bien tout à l'heure, et de sa fougue. Et puis c'est un des rares joueurs à avoir battu aussi Djokovic, Nadal dans un même tournoi à Madrid l'année dernière. Et puis ce deuxième wagon où je mettrai Stefanos Tsitsipas, qui est actuellement sur le terrain, d'ailleurs malmené. On peut mettre Holger Rune, on peut mettre Casper Ruud aussi, même s'il a moins bien joué. Je mettrai un peu plus loin Yannick Sinner, mais on va dire qu'il y a 5-6 joueurs potentiellement cette année à pouvoir aller chercher Roland Garros, contrairement à un dont on parlait tout le temps, Rafael Nadal. Donc pour moi, c'est vraiment les favoris avec deux wagons un peu distincts.
Ouais, Daniil Medvedev, invité exceptionnel de Marion Bartoli ce soir dans Bartoli Time sur RMC. Entretien à retrouver dès 19h en français, s'il vous plaît. Le Russe récent vainqueur du Masters 1000 de Rome sur terre battue arrive avec de grandes ambitions.
Déjà, c'est incroyable ce qui s'est passé à Rome. J'ai jamais cru que je peux avoir un titre si grand comme un Master 1000 sur terre. Parce que je pensais, ouais, que je peux battre quelques mecs, mais de faire une et encore même deux semaines, parce que c'est la première année où c'est sur 12 jours de bon tennis sur terre, ça me paraît impossible. Donc, je suis très content et bien sûr, je vais arriver à Roland-Garros avec beaucoup de confiance.
19h sur AMC dans Bartoli Time pour retrouver cet entretien en intégralité de Daniil Medvedev. Eric, on a un œil sur ce match de Constant Lestienne, notre Français, pour son entrée en lice là dans le tableau principal face à Karen Khachanov. Alors il mène dans les deux premières manches, mais là dans la troisième, il s'est fait breaker.
Oui, c'est ce que je vous disais, il a une fragilité chronique au mollet, et c'est bien le mollet qui a été traité par le kiné il y a quelques secondes, donc il est dans le dur physiquement, c'est indéniable. Je voudrais quand même noter au passage, et ça va être une jolie transition peut-être, qu'il porte une chemise jaune qui en fait est quasiment la réplique de la chemisette de Yannick Noah il y a 40 ans. Et il y a quelques minutes, Yannick Noah avec ses enfants a découvert la fresque de 25 mètres qui donc lui est réservée dans les allées de Roland-Garros. Et d'après les témoignages que j'ai pu suivre sur Twitter, il était très 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 ému parce que la fresque résume un peu sa vie. Je crois qu'on voit sa maman sur la fresque. Donc devant ses enfants, il y a eu l'émotion d'hier avec le concert, et là l'émotion est montée encore d'un cran avec cette fresque. Ça y est, on sait enfin, quand vous entrez dans Roland, que Noah a gagné Roland. Non mais c'est vrai.
Mais qui l'ignore encore aujourd'hui?
Non mais tu rigoles, mais il est hier en conférence de presse, il l'a dit. Ouais. Il est venu voir le combat de boxe de Tony Yoka il y a quelques mois à Roland, et il était avec ses enfants, et à un moment son gosse lui dit: mais papa, il y a une trace de toi quelque part? Et il n'y avait rien. Donc maintenant l'erreur est réparée, et bravo à Amélie d'y avoir pensé.
Puis souvent c'est vrai, Eric, moi quand des jeunes joueurs de tennis nous parlent, pour eux Yannick Noah c'est plus un chanteur en fait. Ils nous disent: non mais c'est un chanteur. Enfin, oui, mais il a gagné Roland Garros quand même il y a peut-être longtemps,
c'est une question de génération pour certains.
Ouais,
aussi, ouais.
Bien sûr.
Évidemment. On va évoquer justement les Français, alors que là, Constant Lestienne vient de se faire double breaker, hein, Eric.
Je pense qu'il a malheureusement une, je crois. Attends, je crois qu'il abandonne.
Oh, pas tout de suite quand même.
Non, oh, j'ai cru qu'il allait abandonner.
Non, on a vu le médecin, je crois qu'il était prêt à intervenir, mais nous fait pas des frayeurs comme ça, Eric.
Non, mais je pense malheureusement, j'ai regardé son activité ces derniers temps. Il a fait abandon à Munich, abandon à Rome. Alors à Rome, c'était le bas du dos. Mais c'est un garçon qui n'a plus gagné un match sur le circuit quand même depuis Rotterdam, depuis les cahiers de Rotterdam depuis le mois de février.
C'est pas loin de la vérité quand même, hein, je pense. Hein,
je pense qu'il est en train de se poser des questions parce qu'il connaît très bien son problème, c'est récurrent. Et le mollet, c'est terrible. Le mollet, Benoît Boutroux, s'il était là, il pourrait en parler. Quand vous avez une pointe au mollet, vous pouvez vous courir. C'est aussi simple que ça.
Ouais.
Donc,
Ce serait terrible quand même pour le Français après avoir fait ses deux premières manches de folie. Ce serait assez incroyable.
Il a collé 6-3-6-1 à Khachanov en jouant un tennis de rêve. Et là, il est stoppé, fauché en plein vol par une blessure au mollet.
On se doutait, hein, ça pouvait être aussi le physique qui lâchait chez Constant. Et puis bon, il y a quand même de l'intensité dans le match. Même si c'est 6-3-6-1, les jeux étaient assez longs. Hein.
C'est mort, Flo, il ne pourra pas.
Ouais, ça va être compliqué. Le kiné est en train d'essayer de lui passer la crème pour essayer de détendre tout ça. Mais c'est vrai, comme le dit Eric, une pointe, tu fais un démarrage. Tu ne peux plus, tu as besoin de ça.
Bon, tu nous tiendras informé, Eric. De l'état de santé du Français. Florent, j'ai envie d'évoquer aussi avec toi justement les tricolores, parce qu'on n'aborde pas forcément ce Roland très confiant, hein, quand même meilleur Français à l'ATP, c'est Hugo Humbert, 39e mondial, aucun Français n'est tête de série chez les hommes. Comment tu vois ce Roland pour les tricolores?
Toujours un petit peu compliqué, forcément là depuis quelques années. Après, pour moi, j'ai eu même avant Roland Garros un petit coup de cœur pour Hugo Humbert parce que ça a été compliqué pour Hugo sur la tournée sur terre avec Monte Carlo. Il doit battre l'Italien Sonego avec des balles de match, ça passe pas. Derrière, il perd des matchs 7-6 au troisième, ça passe pas. Et puis finalement, il va prendre de la confiance. Il a gagné deux énormes tournois Challenger, les plus gros de la catégorie, et ça lui a permis de, en boitant des bons joueurs, hein, au passage, ça lui a permis de reprendre confiance et il a aussi bien appris au contact de Jérémy Chardy, encore plus à apprécier cette terre battue. J'espère que Hugo pourra faire de belles choses. Maintenant, c'est sûr que le tirage est pas simple également pour lui, même s'il joue Adrian Manarino au premier tour, qui a un petit peu plus de difficultés avec la terre battue, ça sera pas simple. Et puis on a la bonne surprise d'Arthur Fils également, qui vient de remporter un tournoi à 250 quand même. C'est un jeune joueur, une jeune pépite, donc est-ce qu'il va pouvoir nous faire de belles choses? On va voir, mais quand vous n'êtes pas tête de série à Roland-Garros, c'est pas simple.
On va écouter justement Hugo Humbert sur son amour aussi pour la terre battue qu'il retrouve aujourd'hui.
Moi non plus, je comprends pas. Non mais c'était passé plein de bonnes choses à Monte-Carlo, j'avais fait des bons matchs, mais bon, j'avais pas gagné. Et j'ai continué le truc et puis j'ai gagné deux challengers. Déjà là, j'ai réservé mes billets pour février. Là, je vais faire la tournée en Amérique du Sud. Non, il y a vraiment un plaisir. J'adore en fait. J'adore parce que c'est beaucoup plus tactique. Ouais, il y a un plaisir supplémentaire. Maintenant, j'adore. Je comprends pas.
Vous avez saisi toute l'ironie évidemment d'Hugo Humbert, qui d'habitude n'est pas aussi doué sur terre battue. Même lui ne comprend pas pourquoi il arrive à être aussi performant cette saison. Eric, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y aura au moins trois Français au deuxième tour, quand on a le droit à trois duels franco-français dès le début du tournoi. Quel Français selon toi peut aller le plus loin justement dans ce Roland-Garros?
Mais pour revenir sur Hugo, parce que c'est un garçon qui est adorable.
Et qui a le sourire. Hein.
Ah ouais, mais toujours. Mais il faut savoir que quand il était jeune, il est de Metz, hein. Quand il était jeune, il jouait tout le temps sur moquette. Parce que il disait, on avait des termes, il faisait jamais beau, donc on allait jouer sur moquette. Donc c'est un garçon qui a un jeu adapté au gazon, mais c'est un bosseur, il est intelligent, et surtout Jérémy Chardy lui a fait rentrer dans le cerveau qu'il pouvait être très bon sur terre. Et il a évolué, il a changé un peu des petites choses, et il a connu le déclic donc sur des tournois mineurs, on va dire. Mais je pense qu'aujourd'hui il va enfin remporter son premier match. Porte d'Auteuil. Les autres matchs franco-français, les derbies, donc oui, il y a effectivement un match assez marrant qui se déroulera sur le cours des Serres entre Arthur Cazot, qui est wildcard, et Corentin Moutet. Alors Corentin Moutet, on le connaît, hein, c'est un garçon qui a une drôle d'histoire puisqu'il s'est fait opérer du poignet droit après l'Open d'Australie. Il est gaucher, on dit c'est pas gênant, sauf qu'il a un revers à deux mains. Donc il a repris la compète, mais sans pouvoir faire de revers à deux mains. Donc il a totalement transformé son jeu. Et donc il joue avec des armes nouvelles, notamment un revers slicé qui est très enquiquinant pour les adversaires. Et donc ça va être un match assez sympathique. Et puis mardi, donc un autre derby entre Richard Gasquet, qui dispute son 20e Roland-Garros, contre Arthur Hinderknecht. Là franchement, on en a parlé dans les paris RMC tout à l'heure, c'est la bouteille à encre. Moi je parie sur un match en 5, mais je ne me mouillerai pas plus.
Au passage, il faut une sacrée main, Eric, hein, quand même, pour jouer à une main. Alors qu'on a un revers à deux mains, il faut une sacrée main, parce que tu me dis tu vas faire que des revers à une main aujourd'hui. Je ne faisais pas énormément de slice. Je peux vous dire, je ne sais pas combien de matchs j'aurais gagné, mais c'est assez fort ce qu'il fait, parce qu'on dirait presque que c'est naturel.
Les Français en difficulté et pas nombreux, surtout dans ce Roland-Garros. Sur lui qui reste pour le moment le dernier vainqueur français à Roland, on en a parlé, Yannick Noah a une explication très claire du problème qui touche le tennis et plus généralement le sport français aujourd'hui.
C'est possible d'aller loin en étant français, mais c'est plus difficile quand t'es français d'être champion. Donc il faut aller un peu te nourrir ailleurs, parce que nous on est habitué à perdre, mais à tous les niveaux on est habitué à perdre. Enfin, tous les entraîneurs ont tous perdu, il n'y en a pas un qui a gagné. Donc tu es entouré de gens qui ont tous perdu, et quand tu gagnes tu te dis mais merde, qu'est-ce qui se passe, je sais pas quoi faire. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je sais pas.
Ça t'est arrivé toi aussi, Flo, de te poser ces questions-là? Est-ce que tu es d'accord avec Yannick Noah? Tu comprends ce qu'il a voulu dire par cette déclaration?
Bah oui, mais à moins d'être Rafael Nadal, Djokovic ou Federer, au bout d'un moment, même quand je gagne deux tournois, au bout d'un moment, on est, comme on joue toutes les semaines, on est toujours aussi confronté à la défaite, donc d'enchaîner. Donc c'est une remise en question permanente. Mais bon, j'ai été entouré aussi d'entraîneurs qui ont gagné, que ça soit avec Pierre Chéret quand j'étais qui a entraîné Cédric Pionnet. Vous allez me dire non, il a perdu deux finales de Grand Chelem. Donc Yannick a raison. Ils ont perdu au bout d'un moment. Mais je pense que ça se change, la
Yannick,
culture.
La différence, c'est que tout ce qu'il a touché, il l'a transformé en or.
Ouais.
Que ce soit individuellement et en équipe avec les filles de Fed Cup, et puis évidemment la Coupe Davis. Donc oui, lui il a un truc. Il sait gagner. Et c'est pour ça que il a répondu à la question, parce qu'on l'avait branché sur Arthur Fils. Alors il le connaît pas trop, mais il a dit avec un petit sourire, mais s'il veut, il m'appelle. Hein, je suis préparateur mental aussi, moi.
C'est vrai que c'est une approche différente, parce que il va rentrer aussi. C'est une relation d'amitié qui se lie avec Yannick. Moi, je le connais un tout petit peu, mais moins bien. C'était moins ma génération. Je connais plus Guy, par exemple, avec qui j'avais été en Coupe Davis en 2006. Mais il va rentrer un petit peu dans l'intimité, Yannick. C'est une relation qui est différente. Donc, c'est sûr qu'il va comprendre un peu mieux peut-être le fonctionnement mental de certains. Après, on a d'autres excellents entraîneurs aussi avec qui on peut gagner.
Évidemment. Je vous garde avec moi, messieurs. Flo, tu bouges pas. Eric, il a abandonné Constant Lestienne? Je l'ai vu repartir au vestiaire là.
Oui, parce qu'il vient de perdre le troisième set, donc il s'accorde une petite pause. Il va changer de chemisette et de peut-être de slip aussi, parce que c'est vrai qu'il fait chaud. Et donc
détail important.
Non, mais c'est vrai. Parce que je pense à ça parce que Noah. Je vais vous livrer l'anecdote.
Ah bah hier, oui, il a été obligé maintenant.
Il y a des journalistes étrangers qui lui ont posé la question, dis-moi Yannick, qu'est-ce que tu penses des pauses pipi, des fausses fraîcheurs qui sont de plus en plus nombreuses sur le circuit actuellement? Et là, il a marqué un petit temps d'arrêt, il a dit, qu'est-ce que tu veux, ils ont une petite vessie, hein. Moi je vois que ça, hein. Moi, à mon époque, j'allais jamais pisser, mais là, il faudrait étudier le problème. Je pense qu'ils ont un problème de vessie.
Mais on a certains, Eric, c'est vrai, mais par contre, il y a certains tournois, notamment où il fait extrêmement humide. Je pense à Washington, notamment. C'est un tournoi qui me vient comme ça. Ça peut être aussi en Australie quand il peut faire humide. Mais là, on a besoin de couper, ne serait-ce que changer chaussettes et, comme tu le dis, sous-vêtements. C'est super important. Après, là, on est au mois de mai, même à Roland-Garros, il fait chaud. Bon, c'est vrai que ces coupures sont parfois
c'est
trop
pas
longues.
L'Australie quand même aujourd'hui, Roland, c'est vrai. Mais il fait bon.
Peut-être
c'est
besoin d'une petite coupure mentale aussi, Constant, aussi, à l'essai après la perte de ce troisième set. Messieurs, restez bien avec nous. Il est 13h27 dans l'Intégral Sport. On vous rappelle que si vous voulez suivre toutes les affiches en intégralité commentées, ça se passe sur l'application RMC avec la radio digitale qui est lancée aujourd'hui. Les résultats, les infos, les interviews des joueurs avec des flashs actualisés toutes les demi-heures. Vous téléchargez l'application RMC et vous vivez au plus près d'expérience Roland Garros. 13h27 sur RMC. C'est l'Intégral Sport. On revient tout de suite. On retournera à Roland-Garros.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi. 13h29 sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. Placé sous le signe évidemment de Roland Garros qui fait ses grands débuts aujourd'hui. Les débuts du tournoi principal. On vous rappelle que si vous voulez suivre toutes les affiches en intégralité commentées, ça se passe sur l'application RMC avec la radio digitale qui est lancée aujourd'hui pour tous les résultats, les infos et les interviews. Vous téléchargez l'appli RMC. Avant d'aller du côté de la porte d'Auteuil, une petite information en rugby. Mohamed Aouas a été placé en détention provisoire en attendant sa comparution immédiate. Ce sera mardi à 13h30. On vous rappelle qu'il avait été interpellé vendredi après-midi pour des faits de violence conjugale commis sur la voie publique. Voilà, on vous donnera plus d'informations par la suite. On retourne du côté de Roland Garros. Retrouvez Florence Serra et Eric Salio. Messieurs, vous êtes toujours avec moi. On parlait justement des Français et de ce Roland Garros qui s'annonce compliqué. Est-ce que finalement on miserait pas, tiens Florent, sur l'ancienne génération? Benoît Paire de retour, Lucas Pouille aussi est là, mon fils est là également. Est-ce que cette ancienne génération peut créer la surprise cette année?
Qu'est-ce que vous appelez surprise? C'est passer deux trois tours ou aller en deuxième, accrocher un quart ou une demi?
Alors est-ce qu'ils peuvent être les plus performants des Français? On va plus le dire comme ça.
C'est compliqué. Richard. Il faut qu'il s'économise vraiment dans les premiers tours. On a vu, ne serait-ce que sur le gros tournoi, le Challenger de Bordeaux, on voit quand il fait un petit 7-5 au troisième, le lendemain, quand il faut revenir sur le terrain, bah c'est très très compliqué physiquement d'enchaîner les matchs. Lucas, là, il y a eu le petit déclic en qualif. Et je me méfie du match parce qu'il rejoue, vous savez, le même adversaire qui est Lucky Loser. Souvent, ça s'inverse. Alors, j'espère qu'à Roland Garros, on n'aura pas ça, mais souvent, le vainqueur n'est pas le même. Donc, j'espère que le soutien, il rejoue sur le même court en plus, va le pousser, ce public du court 14. Je pense que c'est compliqué parce que c'est des joueurs qui n'ont pas énormément de confiance, qui n'ont pas beaucoup de rythme. Benoît Paire, c'est pareil. Donc, passer un tour, deux tours, oui, mais tout de suite quand tu vas te frotter derrière à la tête de série, c'est quand même très compliqué. C'est Benoît, du Cameron Norrie pour Benoît Paire, Eric.
Tirage quand même, hein.
Donc c'est quand même assez compliqué pour la partie de Lorenzo Musetti qui est quand même aussi bien affûté, le joueur italien. Et ça me paraît un peu compliqué.
Non mais Flora, on va pas te vendre du rêve. Il y aura très peu de, peut-être pas de Français en deuxième semaine.
Deuxième,
faut s'y préparer, hein. Mm-hmm. Faut s'y préparer.
On parlait justement de Lucas Pouille, a été évoqué cette renaissance aussi pour le Français qui revient de loin. Il se souvient d'ailleurs de la saison dernière quand il avait même pensé à arrêter le tennis après ses mauvais résultats.
Je me souviens l'année dernière, il était 22h30, 23h, je crois que j'avais terminé. Et on était avec Thierry, avec Félix, avec mon kiné, avec ma femme sur une table dans le restaurant. Il n'y avait plus personne et il n'y avait personne qui disait un mot. Moi j'avais la tête basse et à me répéter comme chaque jour, qu'est-ce que tu fais sur un terrain Donc c'était vraiment pas une bonne période, mais voilà, aujourd'hui j'ai le sourire et je suis extrêmement heureux sur le terrain et avec tout ce que le public me donne, c'est juste fantastique.
Et si on parlait un petit peu de Gaël Monfils aussi, messieurs, Eric, c'est vrai que il nous a procuré tellement de bonnes sensations, de belles émotions, hein, sur ce court Philippe Châtrier dans ses Roland Garros. Gaël Monfils, lui aussi, il revient de très loin. C'est la fin de sa carrière aussi. Lui, ça ressemble un peu à une tournée d'adieu aussi pour le Français.
Quand on l'a rencontré il y a deux jours, il a dit bon bah c'est la fin. Alors on s'est regardé, c'est la fin, c'est ton dernier. Non mais c'est la fin là, Gaël Monfils quoi. On sait jamais avec Gaël, mais en tout cas faut reconnaître que il a été longtemps blessé, vraiment une gêne au pied qui l'a vraiment handicapé. Alors il a repris beaucoup de courage il y a pas très longtemps au mois de mars. Bon pour l'instant les résultats sont pas là, mais je crois que Florent va me confirmer. Il y a eu quand même des bonnes choses à Bordeaux avec un bon premier set lors de son premier match. Donc c'est en train de revenir petit à petit. Et puis bon, avec lui, c'est la magie Roland, quoi. Je suis sûr qu'il va être programmé sur le cours Suzanne Lenglen, comme d'habitude. Il adore ce cours et il va se passer quelque chose, forcément, avec la Monf. Maintenant, il faut se préparer, pourquoi pas, que ce soit la dernière fois qu'on le voit sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Il faut s'y préparer, là aussi.
Ouais, en tout cas, c'est comme ça que lui aussi voit les choses. Il espère bien, surtout, que les regards ne seront pas trop tournés vers lui.
Vu que c'est la fin, il faut me laisser tranquille un tout petit peu. J'ai envie de kiffer un peu ma fin et je suis content, je suis heureux. Pour une fois, je peux être sur le terrain en tant que joueur. C'est très personnel, mais quand je dis c'est la fin, je vais pas jouer dire Roland Garros. J'ai pas un nombre, j'ai pas une date précise, mais c'est bientôt. Donc, il y a la nouvelle génération. Maintenant, allez faire chier la nouvelle génération. Moi, je m'en fiche, j'ai gagné des matchs ou pas gagné des matchs. Ce que je veux, c'est kiffer, d'essayer de faire le maximum et de revenir, si je peux, à un bon niveau. Mais ça, c'est, comme je dis, un but intérieur. Et après, je pense que toutes les attentes, elles sont plus du tout sur un joueur comme moi, quoi.
On le reconnaît bien là, Gaël, mon fils. Eric, on était inquiet tout à l'heure pour Stefanos Tsitsipas. Eh bien, il nous a rassuré quand même dans ce premier set.
Oui, il vient de remporter la première manche, 7 jeux à 5 face au Tchèque Jiří Veselý, qui a pas l'air très très affûté, Florent. Enfin, ça a toujours été le cas. Veselý, c'est voilà, je mets sur la balance, on n'est pas loin des 100 kilos, je pense.
Hein. Ouais, c'est un joueur qui peut être extrêmement dangereux hein, sur quelques matchs. Il avait remporté le tournoi de Dubaï d'ailleurs. Il avait battu Novak Djokovic. Il est capable de battre des têtes de série. Là, on est sur 5-7 face à un joueur aussi en forme que Stefanos Tsitsipas physiquement. C'est compliqué. Il a failli lui prendre la première manche. Là, ça paraît compliqué et ça se retrouve aussi sur le match entre Karine Khachanov et Constant Lestienne. Là, c'est déjà un premier jeu compliqué pour Constant parce que physiquement, on sent qu'il en manque sous le pied pour aller battre un joueur comme Khachanov qui joue toutes les semaines et qui est affûté.
Bon, messieurs.
Il faut bien comprendre que.
Oui, vas-y, Eric.
Les petits Masters 1000, là.
Ah, tu vas pas faire comme Vincent. Mais non, hein. Non, tu fais comme Vincent.
Eric Dimeco, là, les grands chelems. C'est des messieurs. Non mais on passe dans une autre catégorie. C'est des matchs où le physique est super important, puisque on rappelle, on change de format. C'est victoire entre 3-7 gagnants. C'est plus tout à fait le même sport.
Ouais, ça change beaucoup de choses, surtout pour les joueurs voilà, qui découvrent aussi petit peu ces tournois du Grand Chelem. Mais si on a parlé des hommes, place aux femmes. Maintenant, on va évidemment suivre Caroline Garcia. Deux éliminations consécutives au deuxième tour à Roland. Elle n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale. Mais là, elle arrive avec le statut numéro 5 mondial. C'est la seule tête de série française, hommes et femmes confondus. Il y a de la pression quand même sur ses épaules, Florent. Hein.
Oui, parce qu'elle fait une telle saison l'année dernière, mais depuis le Roland-Garros d'ailleurs, où en simple c'était un peu compliqué, et puis le titre avec Kristina Mladenovic, ça a tout déclenché, et puis aller gagner le Masters, la demi à l'US, on l'attendait vraiment cette année. S'il y a une Française qui pouvait gagner Roland, c'était bien elle, mais sauf que le début de saison a été super compliqué, et que c'est difficile mentalement, dans la tête, ça paraît compliqué sur ce Roland-Garros. Après, j'espère qu'il peut y avoir une bonne surprise, mais elle aussi, elle manque tellement de confiance et de rythme avant ce Roland-Garros que moi, ça m'inquiète un petit peu parce qu'en effet, tout le monde est derrière elle, tête de série numéro 5. C'est elle qui peut aller le plus loin. Il faut vraiment faire un travail dans la tête pour, on va dire, enlever cette pression des épaules, mais c'est pas simple à faire.
On va l'écouter justement à la Française qui arrive en confiance à Roland-Garros, l'un de ses tournois préférés.
Je me sens bien, je suis contente d'être à Roland-Garros. C'est un tournoi qui est très spécial, forcément. Je l'ai vu très souvent à la télé quand j'étais petite et je rêvais de le jouer. Et aujourd'hui, j'ai la chance de le jouer une nouvelle fois. On a fait une bonne préparation. Tout le monde pense que j'ai eu des grandes vacances, mais j'ai eu 3 jours, en fait. Mais ouais, ça fait du bien un petit peu de ressourcer le physique et aussi le mental pour 2-3 semaines qui peuvent être chargées.
2-3 semaines, elle se projette donc un peu quand même, Caroline Garcia. Eric, est-ce que tu la vois aller loin, toi, dans ce Roland? Comment tu l'as senti ces dernières semaines, la Française?
Ah bon, ouais, elle se fixait très vite. Hein. Elle va jouer une Chinoise, une gauchère qui est très dangereuse. Si elle est bien dans sa tronche et qu'elle passe, tout est permis. Tout est permis, mais c'est avec elle, c'est presque tout ou rien. On l'a vu l'an passé. Il y a eu des parcours fabuleux, mais souvent c'est le premier obstacle qui est le plus dur.
Et parfois elle joue toute seule, Eric, c'est ça aussi, oui. C'est que tout peut rentrer et puis le lendemain ça peut être complètement autre chose. Il suffit qu'elle se sente un peu moins bien ou la terre ça sera peut-être plus lourd. Là c'est assez sec en ce moment. Donc il y a plein de paramètres aussi qui peuvent changer et ça peut être tout dedans et ça peut être compliqué le lendemain et on sent qu'il y a une petite panique qui peut s'installer si jamais son jeu ne va pas comme il veut. Donc comme elle veut. Donc voilà, il faut bien le préparer dans la tête, pas de panique. Elle sait tout faire, elle a un tennis magnifique. Moi j'y crois, mais j'ai du mal à croire que tu peux gagner un tournoi du Grand Chelem quand t'as pas gagné beaucoup de matchs avant.
Ça peut aller très vite dans le tennis féminin. Il suffit que t'enclenches 2-3 victoires.
C'est très ouvert, en tout cas, ça c'est sûr.
Ouais. Ouais, la confiance revient très vite. Ouais. Et,
c'est en 2-7.
En plus, elle va avoir l'amour de peut-être 15 000 personnes parce qu'elle jouera sûrement sur le central ou sur le Linglen. Donc ça change beaucoup de choses aussi. Et je pense qu'elle a. elle a changé son rapport avec le public. Elle va essayer de kiffer, comme on dit, et prendre toute l'énergie des spectateurs. Et ça, c'est vital pour qu'un Français aille loin.
Rappelle-nous, quand est-ce qu'on va la retrouver, Caroline Garcia, là, pour son entrée en lice?
Caroline, elle est dans le bas de tableau.
Demain. Demain. Ok, on sera évidemment au rendez-vous sur RMC. Un point sur le direct, tiens Eric, parce que ça démarre mal hein, cette quatrième manche pour Constant Lestienne face à Karen Khachanov. Hein.
Ouais, break d'entrée pour le russe, donc 2-7-1 Lestienne, 6-3, 6-1, 2-6, 1-0 Khachanov, mais 0-30 sur sa vie du russe, il y a encore un petit espoir. Match sympa sur le Simone Mathieu entre Goffin et Hurkacz, il y a 2-7-1 pour le polonais, mais le belge mène 3-1 dans le quatrième, et puis il y a un français qui est sur le 14, le fameux 14, l'un des cours préférés des spectateurs parce qu'il y a une proximité extraordinaire. Fuxovic mène 6-3, 2-3 pour Fuxovic face à Hugo Grenier.
On va suivre tout ça évidemment avec vous, puis on rappelle aussi que Benjamin Bonzi a déclaré forfait. Messieurs, Eric, Florent, vous retrouvez évidemment toute la journée pour suivre ces résultats en direct à Roland-Garros. Merci beaucoup messieurs.
Merci, à bientôt.
Avec plaisir.
Votre rendez-vous tennis avec Prime, diffuseur officiel de Roland-Garros.
Et si vous êtes fan de tennis, rendez-vous sur l'application RMC pour suivre les meilleures affiches du tournoi. Commentez en intégralité. Vous retrouverez aussi tous les résultats, les dernières infos, les interviews avec des flashs actualisés toutes les demi-heures. Pour ça, téléchargez l'application RMC. Vous vivrez l'expérience Roland-Garros au plus près. 13h40 sur RMC, l'intégral sport revient tout de suite. On va aller sur le circuit de Monaco dans quelques instants. C'est l'autre grand rendez-vous du jour, le Grand Prix de Formule 1 dans la Principauté. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
13h42 sur RMC. L'Intégral Sport continue avec évidemment un œil du côté de Roland Garros. Un dimanche de sport sur RMC. Nouveauté cette année. RMC lance sa radio digitale. Tous les jours, les meilleures affiches du tournoi seront commentées en intégralité sur l'application RMC. Vous retrouverez aussi tous les résultats, les dernières infos, les interviews des joueurs dans des flashs actualisés toutes les demi-heures. Pour ça, téléchargez l'application RMC et vivez au plus près l'expérience Roland Garros. Mais évidemment, nous sur RMC, toute la journée, on va vous tenir informés des résultats. Et notamment Eric avec Constant Lestienne, qu'on pensait un petit peu largué dans cette quatrième manche. Bah, il a débriqué le français finalement.
Absolument, il est revenu à un jeu partout dans cette quatrième manche. Donc je pense qu'il essaie de gérer sa douleur au mollet. Mais puis il faut compter aussi sur la fébrilité de Khachanov qui ne doit pas savoir sur quel pied danser. Donc oui, encore
il a l'air un peu nerveux. Hein, ouais.
Ah, mais il est très nerveux, Khachanov, parce que déjà le jeu de Lestienne, ça le rend dingue. Mais c'est vrai que la situation est bizarre, puisqu'on voit bien qu'il est handicapé, Lestienne. Mais bon, on va voir. J'ai le programme de demain, c'est intéressant, parce qu'on parlait de Corinne Garcia. C'est confirmé, Flora. Elle jouera sur le central en troisième rencontre. Donc c'est le match vedette. Et puis, bon, petite devinette, c'est toujours la question qu'on aura tous les jours. Quel va être le match de Night Session, Flora?
Bah oui.
Alors, fille, garçon?
Allez, garçon.
Oui.
Ok.
Tu vas pas trouver, je suis sûr.
Ok, vas-y, dis-moi.
C'est Yannick Sinner contre Alexandre Muller. Voilà.
D'accord.
Ça a été le choix de l'organisation. Ce sera donc le match, la première véritable night session, pas avant 20h30. Donc demain, sur le Center Court. Sur le Court Philippe Chatrier. Je sais pas où il me donne, là.
Ça, en cours central, ça marche aussi. T'inquiète pas, Eric. Merci. Tu gardes un œil, évidemment, sur notre français Constant Lestienne en ce moment pour voir ce qu'il va faire dans ce premier tour. Autre événement incontournable aujourd'hui, le Grand Prix de Monaco en Formule 1. Départ à 15h. Tout à l'heure, on vous donnera tous les enjeux avec Jean-Luc Roy. Mais on va d'abord prendre la température dans la principauté avec Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut Flora, salut à tous.
Je t'imagine déjà avec tes lunettes de soleil, ton petit polo et ta crème solaire dans le paddock là. Tu dois pas être le seul, hein, parce que le Grand Prix Monaco, c'est une vraie institution.
Bien entendu, t'as très bien résumé le look à avoir ici, hein. Il faut avoir les lunettes de soleil, chemise ou polo, pourquoi pas un petit shirt, et puis le chapeau, mais ça c'est en plus. Malheureusement, j'ai oublié les lunettes de soleil, mais effectivement beaucoup de monde autour de ce circuit, et il fait très très beau. Tu parlais de température, on doit être à peu près à 30 degrés, un grand soleil, alors que peut-être il y a une semaine on craignait qu'il y ait des précipitations. Donc ça approche dans de très bonnes conditions, ce Grand Prix de Monaco. Les tribunes sont en train là de se remplir sous mes yeux. Grandement, près de 30 000 personnes qui peuvent accéder au circuit. Et bien entendu, Flora, qui dit Monaco, dit VIP, des footballeurs, Neymar, Donnarumma. On a vu les Marseillais Under, Kolasinac. Il y a le président de la FIFA qui s'est baladé dans le paddock, Gianni Infantino. Il y a les anciens pilotes, hein, Prost, Rosberg, Alesi. On a vu aussi Fabio Quartararo, des acteurs étrangers. Bref, des VIP du monde entier. Et puis ça grouille aussi un petit peu moins là parce qu'on se rapproche de la course. Mais dans les rues de Monaco, derrière le circuit, les boutiques tournent à plein régime, ambiance un petit peu gardée bien évidemment, mais ambiance sympathique, c'est ce que nous disaient des supporters, des fans qu'on a croisés il y a quelques minutes dans Monaco.
L'ambiance elle est différente. Rien que de voir les voitures passer, frôler le mur, même quand on est assis, on sent les vibrations, tout ça, ouais, c'est une ambiance spéciale.
Un des plus beaux jours de notre vie. C'est très très bel endroit et vraiment c'est un cadre idyllique. Comme c'est un circuit de ville, je pense qu'on est plus proche que certains circuits et vraiment ça crée une ambiance encore en plus par rapport aux autres circuits.
C'est de la bonne adrénaline et plus ça va monter crescendo, plus ça va être impressionnant avec les bruits, la parade des pilotes. Et dès qu'on va s'asseoir, c'est que là on y est.
Bon, ton Charles Leclerc là.
J'ai vu ça hier, il s'est pris 3 places de pénalité. Je pense qu'il peut remonter sur le podium et j'espère.
Il espère tous, hein, ici, les fans de Charles Leclerc, qui étaient justement à cette parade des pilotes qui vient de se terminer. Il a salué la foule avec le sourire, le pilote monégasque, même s'il a encore joué, on va dire de malchance. En tout cas, le sort ne lui a pas été favorable hier en qualif.
Tu es toujours bien placé, Valentin, quand tu es dans le paddock. Et t'étais au plus près d'Esteban Ocon quand il a appris justement la bonne nouvelle hier.
Et oui, parce que c'est l'autre acteur concerné par cette pénalité de Charles Leclerc qui recule de 3 places sur la grille et qui va se retrouver 6e au départ. Et bien ça a fait les affaires de Esteban Ocon. Alors si on remonte quelques minutes avant qu'il ne la prenne, déjà on était en train d'attendre les pilotes qui défilent face aux journalistes pour s'exprimer, et il y avait la Q3 qui était en cours et on a entendu les tribunes faire un wow et on s'est dit oula, qu'est-ce qui se passe. Et c'est Esteban Ocon qui venait de claquer un temps exceptionnel et les tribunes ont derrière fait le même bruit à 2 reprises parce qu'ils étaient impressionnés, les spectateurs, parce que venait de faire Alonso qui a pris la pole, puis Verstappen qui a pris la pole. Donc déjà tout le monde était un petit peu ébahi par ce qui venait de se passer, même les journalistes se regardaient entre eux. Et puis Ocon, provisoirement 4e, est arrivé. Énorme sourire, on s'est même demandé s'il n'allait pas faire un petit pas de danse, il gesticulait, il était vraiment content, il a répondu à 2 télés. Et là son attaché de presse, en fait, juste devant nous, lui montre le téléphone, lui explique que Charles Leclerc est sous enquête. Et alors attention, petit gros mot, mais Ocon a lâché un oh putain. Voilà, comme ça il était très surpris de voir ça. Voilà, il était très surpris de se dire qu'il allait peut-être partir 3e pour le Grand Prix de Monaco. On sait que la place au départ est très importante. Derrière il a continué de répondre aux questions et il s'est notamment expliqué à notre micro. Il était joyeux évidemment, Esteban Ocon.
C'était un tour de tous les risques, je pense. J'ai tapé énormément les barrières 2 ou 3 fois sur le tour, donc voilà, j'étais vraiment proche de ce qui pouvait se faire de mieux, et je suis très content que ce soit passé au final, parce que voilà, aujourd'hui on arrive à se mettre dans une position où on s'attendait pas du tout. Ça montre que voilà, il faut jamais rien lâcher en Formule 1, il faut toujours croire en ses rêves et jamais rien lâcher.
Et la pénalité contre Charles Leclerc officialisée vers 20h, le pilote monégasque Ferrari, il est parti vers 20h30, on l'a vu tête basse, il ne s'est pas arrêté, notamment pour signer des petits autographes, alors qu'il le fait tout le temps. Il était hyper frustré hier soir, Charles Leclerc.
On le comprend en même temps et on le retrouvera sur la grille tout à l'heure, départ du Grand Prix de Monaco à 15h. Merci beaucoup Valentin, tu vas
avec
continuer
grand plaisir
te balader dans le paddock, petit chanceux que tu es. Ce sera évidemment à suivre, hein, ce Grand Prix en intégralité dans l'Intégral Sport sur RMC avec Simon Dutin et Jean-Luc Roy tout à l'heure à 15h. On vous donnera aussi évidemment tous les enjeux. Max Verstappen partira en pole position, on vous le rappelle, Esteban Ocon 3e. Direction la Porte d'Auteuil maintenant, Roland Garros, Eric Salio pour ce premier tour, et c'est vraiment tendu entre Karen Khachanov et Constant Lestienne, parce qu'est-ce qui peut râler Khachanov sur chaque balle, chaque décision des arbitres aussi, hein.
Ouais, là il y avait un litige avec l'arbitre sur la lecture d'une trace. Bon, bah, voilà, c'est le charme de la terre battue. En tout cas, l'arbitre a donné raison à Constant Lestienne, qui sert donc dans cette 4e manche pour mener 2-1. Il est avantage sur sa mise en jeu. Je rappelle qu'il a pris le premier 6-3, le deuxième 6-1. Petit coup de mou dans le 3e, perdu 6-2 avec une douleur au mollet qui est apparue, mais pour l'instant il s'accroche, il se bat, il semble pas tant gêné que ça, mais il faut gagner en 4, c'est évident. Il faut surtout pas qu'il laisse le Russe revenir à 2 manches partout. Donc de cet Lestienne, 1 partout au 4e, et ça va bien pour Tsitsipas qui mène 7-5-2-1. Quant à notre petit français Hugo Grenier, il est mené 6-4-4-3 par Fuksovic.
Ouais, là on voit un Constant Lestienne sur chaque balle, il va falloir se battre, hein. Tu parles d'aller en 4, de gagner en 4 manches, ça va être très très long, hein, parce que si tous les jeux sont aussi longs que celui-là, ça n'arrête pas entre l'avantage et de revenir à 40 à chaque fois, ça peut durer un moment, hein.
Bah oui, on est à 2h38, hein, Flora, donc
déjà, c'est
vrai que le chrono avance vite et je vous l'avais dit, il n'a pas gagné beaucoup de matchs depuis 2-3 mois, Constant Lestienne, donc c'est compliqué, mais en face, c'est pas d'une grande sérénité, Khachanov, il commet beaucoup de fautes. Alors lui non plus n'est pas à son pic de forme, visiblement, il n'a pas eu d'excellents résultats, que ce soit à Madrid ou à Rome, donc il y a vraiment un coup à jouer, il y a un coup de collier à donner, ça se joue dans la demi-heure qui vient.
Allez, on vous tiendra évidemment informé de l'évolution du score. Merci beaucoup Eric. L'Intégral Sport qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Après le tennis, le foot, la Formule 1, place maintenant au basket. La Betclic Elite et le match 1 des demi-finales entre Boulogne-Levallois et l'Asvel. Coup d'envoi à 15h15 à Levallois. Arnaud Valadon sera au commentaire. Salut Arnaud.
Bonjour Flora, bonjour à tous.
Et tu n'es pas seul parce que le directeur des opérations sportives des Metropolitans, Alain Weiss, est avec toi. Bonjour Alain, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alain, cette demi-finale face à l'Asvel, c'est un vrai choc, hein, face à un des cadors du championnat, triple champion en titre. Comment on aborde justement une telle confrontation ?
Mais on l'aborde en tenant compte pas vraiment de leur passé, plus ou moins lointain, mais surtout de la saison en cours. On a joué 4 fois. Contre l'Asvel. On a perdu 3 fois, on a gagné 1 fois. Donc on sait à quoi s'en tenir, on connaît la qualité de l'effectif. Même s'ils n'ont pas réussi une grande saison en Euroleague, c'est un candidat incontestable au titre de champion et peut-être à conserver leur titre.
Et une donnée importante quand même dans ce match, Alain, Nando De Colo va manquer les 2 premiers matchs pour l'Asvel. C'est une bonne chose pour vous ça quand même, non ?
Bon, c'est une bonne chose, parce que Nando De Colo est vraiment très fort. Maintenant, vous savez, sur 1 ou 2 matchs, une équipe qui est aussi bien, je dirais, achalandée hein, que l'Asvel peut très bien s'en passer, parce que d'autres, je suppose que Rizaché va jouer plus que d'habitude, d'autres vont se sentir avec plus de responsabilité. Sur tout un championnat, ça aurait affaibli l'équipe de l'Asvel d'une façon considérable. Sur 1 ou 2 matchs, j'en suis pas sûr. On n'a pas sauté de joie lorsqu'on a su que Nando De Colo ne jouerait pas les deux premiers matchs. Mais c'est vrai que, si on s'en tient à la logique, c'est quand même un manque du côté de l'Asvel.
Arnaud, une question.
Sur la saison des Metropolitans, Alain, parce qu'évidemment, c'est dur de ne pas parler de Victor, mais il y a l'éclosion de Bilal Koulibaly aussi qui est attendue à la draft également au premier tour, et même les vertus que cette équipe montre avec Vincent Collet à la baguette. Il y a parfois eu débat, le cas de Tremont Waters, le meneur qui est parti, mais vous avez su vous entourer, Brand Junior qui est arrivé. Elle dégage quelque chose de spécial quand même cette équipe.
Elle dégage de ce qu'on espérait. Alors d'abord, on avait imaginé que Victor soit très fort, peut-être pas aussi fort que ce qu'il a montré tout au long de l'année. Il faut être raisonnable, mais vous savez, à partir du moment où on l'a recruté, où il est venu chez nous et où on a construit l'équipe, on a construit l'équipe avec des jeunes joueurs. Le seul joueur qui était un joueur confirmé, c'était Tremont Waters, et il n'a pas supporté la hype qu'il y avait autour de Victor. Donc l'équipe est très jeune, mais les jeunes sont de qualité. Koulibaly qui se présente à la draft, Armel Traoré qui est là, Hugo Besson ils ont tous 20 ans ces garçons, et vous avez remarqué que jusqu'à présent on joue seulement avec 3 étrangers et que des joueurs français. Voilà, donc ça pour moi c'est une grande réussite, parce qu'il y avait même au niveau de notre club beaucoup de gens qui étaient dubitatifs lorsque, avec Vincent Collet, on a choisi cette voie. Par contre aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer en demi-finale ou après, mais c'est déjà une réussite, parce qu'avoir 2 joueurs draftés la même année, alors Victor,
c'est pas des petites positions.
Non, alors pas des petites positions. Bon, Victor Wembanyama, c'est pas simplement nous, même si c'est chez nous qu'il a éclos, c'est pas simplement nous, parce que de toute façon il aurait été très haut dans la draft. Mais par contre les autres, Koulibaly en début d'année il joue en espoir. Hein.
C'est
donc c'est une réussite. Je veux pas me lancer des fleurs gratuitement comme ça, mais ça peut être véritablement le lancement d'un club qui s'intéresse aux meilleurs jeunes français. D'ailleurs on a beaucoup de sollicitations des très bons espoirs, hein, des garçons de 18 ans qui nous sollicitent pour venir au club. Maintenant, il faut aussi tenir compte du fait que les performances qu'on a faites cette année, c'est dû à un grand coach. Alors bon, je le présente plus, hein, c'est le coach multimédaillé de l'équipe de France, mais il y a beaucoup de choses qui dépendront de sa présence aussi.
13h56 dans l'intégral sport, on est avec Alain Weiss, directeur des opérations sportives des Metropolitans, avant le match 1 des demi-finales de la Betclic Elite entre Boulogne-Levallois et l'ASVEL. Alain, vous en avez parlé évidemment de Victor Wembanyama, il y a une vraie euphorie autour de lui, c'est l'attraction. Vous qui le côtoyez au quotidien, quel regard vous portez sur lui quand tout le monde parle de phénomène pour le qualifier aujourd'hui?
Oui, je pense que sur le plan du basket, effectivement, voir un garçon de 1m21 qui bouge aussi bien, qui est aussi coordonné, aussi adroit, bon, c'est phénoménal. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a aussi les attitudes et l'intelligence pour supporter tout ce qui lui tombe dessus. Parce que je sais, ce sont des choses positives, mais c'est difficile à 18 ans, 19 maintenant depuis janvier, de supporter tout ça et de pas dire de bêtises quand il est interviewé, parce que on lui pose des tas de questions et s'il répondait pas, on dirait oh, il est arrogant, il refuse de parler aux médias. Et donc il le fait pas, il répond à tout. Et mais le problème, c'est que quelquefois on peut apparaître là un petit peu prétentieux en disant bon, je veux gagner dès la première année le titre avec San Antonio et tout ça. Bon, ce sont des choses qu'il corrigera lorsqu'il sera véritablement en NBA. Puis il verra que là, les rapports de force changent considérablement.
Vous avez évoqué évidemment son avenir en NBA où il va être drafté normalement si tout se passe comme prévu du côté des Spurs de San Antonio. Comment vous, du coup, vous préparez déjà la suite, la saison prochaine aussi sans lui?
Alors la suite, elle se fera sans moi également, mais c'est pas le même.
Vous n'êtes pas drafté, Alain. Hein.
Non, je suis pas drafté. Je suis tout simplement, j'aurai 70 ans demain, donc j'avais décidé.
Eh ben, bon anniversaire.
Merci, c'est très gentil. Donc j'avais décidé, quoi qu'il arrive, de m'arrêter. Mais je sais que le maire de Boulogne-Billancourt s'est engagé à ce que l'équipe l'année prochaine soit formée, dirigée. On a un petit retard, enfin le club a un petit retard à l'allumage au niveau du choix du futur coach et puis du recrutement. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre, même si déjà on est un petit peu en retard par rapport aux autres clubs en matière de recrutement.
Merci beaucoup Alain Weiss d'avoir été avec nous dans l'intégral sport et bonne chance à vous dans quelques minutes pour le coup d'envoi en 15-15 pour ce match 1 des demi-finales de la Betclic Elite entre Boulogne-Levallois et l'ASVEL. Merci Arnaud, on te retrouve tout à l'heure évidemment aux commentaires pour nous faire vivre cette rencontre. 13h58, l'intégral sport, on revient tout de suite sur RMC.
RMC, intégral sport,
Flora Moussi.
h 06 sur AMC, merci de nous rejoindre dans l'intégral sport. On vous accompagne jusqu'à 15h. Ensuite, ce sera Simon Dutin avec Jean-Luc Roy pour vous faire vivre le Grand Prix de Monaco en Formule 1. On vous donnera tous les enjeux, évidemment, dans quelques instants. Et puis, on sera aussi du côté de la Porte d'Auteuil. C'est le grand début de Roland-Garros aujourd'hui avec le premier tour. On retrouvera Eric Salio pour les résultats des Français, notamment, qui sont sur les cours. Mais on approche du dénouement de la saison de Ligue 1. Il ne reste plus qu'une journée à vivre. Et hier, déjà, la 37e journée a offert quelques réponses. Et notamment, le du nouveau champion de France. Le PSG a assuré l'essentiel avec son match nul 1-1 à Strasbourg, un point qui suffit à Paris pour être sacré pour la 11e fois de son histoire. Un record dans le championnat de France, et Arthur Perrault a vécu tout ça pour RMC. Salut Arthur.
Salut Flora, bonjour à tous.
Terminer cette saison en demi-teinte par un match nul à Strasbourg, c'est un petit peu symptomatique quand même du mal qui a rongé le PSG toute la saison.
Ah oui, c'est totalement à l'image de cette saison parisienne, marquée par des contre-performances, surtout à domicile, et marquée par les affaires extra-sportives. Et c'est vrai que cette dernière prestation à Strasbourg est très décevante, où on a pu voir une nouvelle fois à quel point ce groupe peut être ultra dépendant de l'état de forme de Kylian Mbappé, où on a vu un Lionel Messi une nouvelle fois décevant. Donc voilà, ça a été aussi compliqué pour la défense. On rappelle qu'il y avait quand même 8 forfaits du côté parisien et que voilà, ça a été aussi compliqué pour le jeune Titi El Shaddai Bichouabou. Donc voilà, les Parisiens qui soulèvent quand même un titre historique, mais qui terminent sur une mauvaise note. Peut-être qu'ils auront à cœur de bien finir. Ce sera samedi à 21h au Parc des Princes contre Clermont.
Ouais, tu t'en parles de ce titre décroché hier. Il n'y a pas eu d'effusion de joie hein, quand même de la part des Parisiens. Alors on rappelle, ils étaient à l'extérieur à Strasbourg. Ouais. Strasbourg qui a fêté en plus son maintien. Donc il y avait un vrai contraste aussi entre les deux. Mais on s'attendait peut-être à un petit peu plus d'effusion de joie. C'est sans doute lié aussi à l'état actuel du PSG.
Oui, et c'est vrai qu'il y avait quand même 700 supporters parisiens qui ont fait le déplacement, dont 300 membres du collectif Ultra Paris. Pour vous faire un peu la chronologie de ce qui s'est passé dès le coup de sifflet final, on a vu la joie de Christophe Galtier, joie aussi très mesuré avec son staff. On a vu les joueurs venir longuement discuter avec lui, quelques accolades. Ils sont ensuite allés remercier les supporters. Ça a duré une dizaine de minutes. Et puis, dans la foulée, voilà, ça, il y a eu quelques célébrations dans le vestiaire. Et puis, certains ont très vite pris la direction de l'aéroport de Strasbourg pour ensuite rejoindre Roissy. Ça a été très, très vite. Il y a eu quand même quelques chants, quelques bouteilles de champagne d'ouverte à consommer avec modération. Mais on n'a pas vu de large sourire sur l'ensemble des visages du groupe. Ça a été une nouvelle fois très très mesuré.
Du coup, la fête, elle est pour samedi prochain au Parc des Princes, cette fois-ci face à Clermont. Qu'est-ce qui est prévu vraiment ?
Alors, tout est en train de se caler, ma chère Flora. C'était un peu là de la dernière minute hier soir avec les supporters, pour certains qui étaient donc à Strasbourg, d'autres qui se préparaient à prendre la direction aujourd'hui d'Orléans, parce qu'il y a un match important pour les U19 en demi-finale de leur championnat face à Marseille à 17h. Oui, tout sera pour le Parc des Princes samedi prochain, feu d'artifice, évidemment que le collectif Ultra Paris sera là. Reste à savoir si vraiment ils pousseront à fond le club et qu'ils chanteront jusqu'à la célébration et ce feu d'artifice. La question reste un peu en suspens et ce sera sans doute la principale interrogation sur ce dernier rendez-vous.
Il va se poser aussi évidemment maintenant la question de l'avenir de Christophe Galtier, Arthur, avec ou sans lui la saison prochaine, c'est la grande question.
Oui, alors même si évidemment depuis plusieurs semaines sur rmcsport.fr, on vous explique que voilà, vraisemblablement il ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Vraisemblablement, pourquoi on utilise ce mot ? Parce qu'évidemment c'est lié à son remplaçant et le profil qui est recherché par le Paris Saint-Germain, qui reste quand même très exigeant. Le PSG recherche un profil expérimenté qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Autant dire que sur le marché à l'heure actuelle, c'est difficile de trouver ce profil-là. Donc ça dépend aussi de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile d'affirmer à 100% que le Paris Saint-Germain va trouver cette identité-là.
Donc il pourrait rester s'il ne trouve pas le profil adéquat.
C'est difficile de dire le contraire. C'est une réalité. C'est le travail qui attend les dirigeants parisiens, c'est de trouver ce profil idéal. Mais très clairement, si le Paris Saint-Germain ne le trouve pas, il se pourrait que Christophe Galtier soit là la saison prochaine. En tout cas, lui, il se projette toujours, il se projette depuis plusieurs semaines. Et encore une fois, hier soir en conférence de presse d'après-match, la question lui a été posée, la réponse de l'entraîneur, actuel entraîneur parisien.
Pourquoi je le mérite ? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie tout au long. Nous avons su, j'ai su maintenir le cap dans les moments très 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 difficiles, que ça soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan personnel. Vous m'avez pas épargné. Nous sommes champions de France. Nous avons gagné le trophée des champions. Les saisons catastrophiques au Paris Saint-Germain, c'est quand on n'est pas champion. Oui, j'estime personnellement que je mérite de continuer.
C'est rare aussi d'entendre les entraîneurs se défendre comme ça, Arthur, légitimer leur poste. C'est vrai que la saison a été compliquée, mais au moins l'un des objectifs est rempli avec ce titre. C'est vrai.
Oui,
aussi.
Et puis certains pourraient penser que c'est du bluff, hein, alors que peut-être qu'il sait très bien que.
Un intox.
Voilà, exactement. Mais c'est sa ligne directrice, j'ai envie de dire. Encore une fois, ces déclarations-là, elles ne datent pas d'hier. Ça fait plusieurs fois qu'il répète qu'il travaille déjà sur l'effectif de la saison prochaine, qu'il a toujours la confiance du conseiller sportif Luis Campos, que Nasser Al Khelaifi, le président, ne lui a toujours pas indiqué qu'il allait se séparer de lui pour la prochaine saison. Donc voilà, Christophe Galtier y croit, peut-être qu'il a raison, en tout cas pour l'instant, les grandes manœuvres attendues au Paris Saint-Germain n'ont pas encore débuté, mais attention parce que ça pourrait très très vite s'activer aussi.
Alors j'ai envie d'en savoir plus maintenant, tu nous teases ça, ça veut dire quoi ? Il va y avoir un été agité du côté du mercato pour Paris ?
On nous répète qu'il y aura de gros changements, à la fois au niveau de l'effectif mais aussi de la direction du club. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Hein. On sait qu'on attend toujours le remplaçant ou la remplaçante de Jean-Claude Blanc qui occupait le poste de directeur général adjoint. Voilà, on devrait bientôt connaître l'identité de son remplaçant. Évidemment que la question se pose sur l'identité du coach. Là encore, pour l'instant, on n'a pas plus d'indications. Mais attention, parce que des prises de parole pourraient intervenir dans la foulée du dernier match face à Clermont, à la fois de Nasser Al-Khelaifi et de Luis Campos. Et à ce moment-là, on risque d'en savoir très vite beaucoup plus.
Tu nous tiendras évidemment informés parce que l'été va être agité aussi pour toi, Arthur. Merci beaucoup pour ces infos du côté du PSG. On va parler de la course à l'Europe dans quelques instants. Juste un point à Roland-Garros. On va retrouver Eric Salio et Florent Serra parce que ça se complique évidemment pour Constant Lestienne face à Karen Khachanov. Il vient de perdre le quatrième set et puis c'est assez froidement. Hein.
Oui, 6-1 pour Khachanov. En fait, c'est le jeu de le troisième jeu qui a tout décidé. Hein, partout, il y avait un jeu très serré. Il l'a perdu. Je veux pas dire qu'il a laissé filer le quatrième, hein, Flo, mais c'est vrai qu'on le sent un peu diminué depuis quoi, une heure et demie, hein, Constant.
Même sur les secondes balles au service, on sent qu'il pousse moins qu'au début. Mais c'est marrant parce que il jouait tellement bien, c'est la seule crainte qu'on avait. On s'est dit, s'il arrive à mener, il va falloir tenir physiquement. Et là, on sent que sur les secondes balles, il pousse plus, il a le mollet qui le gêne. Et on sent que oui, il joue à moitié, donc il garde de l'énergie éventuelle pour la cinquième manche. Mais quand tu laisses un joueur comme Khachanov revenir, de toute façon, à 2-7 partout, ça va être compliqué.
Donc cinquième set sur le Langlen. Cinquième set sur le court Simon Mathieu entre Goffin et Hurkacz. Et puis on suit également donc Hugo Grenier, le Français, sur le 14. Il est mené une manche à 0, 6-3 par Fucsovic, mais il mène 5-4 au deuxième.
Merci beaucoup messieurs pour tous ces résultats en direct de la Porte d'Auteuil.
Votre rendez-vous tennis avec Prime, diffuseur officiel de Roland-Garros.
Et puis pour suivre toutes les meilleures affiches du tournoi commentées en intégralité, ça se passe sur l'application RMC, la radio digitale RMC 100% terre battue. Pour toutes les infos et les résultats, téléchargez l'application RMC. On parlait de la Ligue 1, le PSG est donc champion. Lens est assuré de terminer à la deuxième place et pour le reste, c'est encore le suspense total et notamment dans la course à l'Europe. Deux places pour quatre équipes et un seul dernier match pour faire la décision. La lutte s'annonce rude entre Lille, Rennes, Monaco et Lyon. Et pour nous en parler, Timothée Mémon est avec nous. Salut Timothée.
Salut Flora, salut à tous.
Un point de classement quand même pour bien comprendre et démarrer. Lille est 4e avec 66 points, Rennes 5e, 65 points, Monaco 6e, 65 points. Ça joue à la différence de but. Et puis Lyon 7e, 62 points. Tu as commenté Lille hier, Timothée, cette victoire importante face à Nantes. Les Lillois ont fait pour le coup la très bonne opération du jour. Ils ont désormais leur destin en main pour aller en Europa League la saison prochaine.
Oui, c'est vrai. Au regard de l'ensemble de la saison lilloise, on les a vus rater le coche par moment, faire des non-matchs, on pense par exemple au match face à Angers, eh bien cette équipe de Lille, dans les derniers instants, elle est en train de trouver de la régularité. Alors, il faut dire aussi que Paulo Fonseca est arrivé avec des idées d'un jeu de possession, d'un jeu dynamique, avec un déséquilibre calculé, et que ce jeu, il a fallu le mettre en place. Cette équipe de Lille, elle a pris beaucoup de buts, elle en a marqué aussi beaucoup et on a l'impression qu'elle est en train de trouver plus exactement sa stabilité en cette fin de saison, ce qui est d'ailleurs prometteur en vue de la saison prochaine. En tout cas, c'est une équipe que l'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là au regard de son parcours sinusoïdal, ouais, jusqu'à présent, et qui finalement, dans les derniers instants, arrache la possibilité d'être maître de son destin. Faudra aller gagner à 3. On va pas dire que c'est chose faite, mais 3 ne va pas bien et 3 est déjà relégué alors que Lille aura vraiment le mort aux dents.
Ouais, et en plus la différence de but, c'est peut-être le petit détail, la différence de but entre Lille et Rennes, elle est plus à l'avantage des Rennais aussi dans ce classement-là, d'où l'importance de gagner dans cette dernière journée pour les Lillois.
Elle devrait pas rentrer en ligne de compte parce qu'il y a qu'un point d'écart. Elle serait rentrée en ligne de compte s'il y avait 2 points d'écart et si eux avaient fait match nul et que Rennes avait gagné. Ouais. Mais c'est vrai que ça prouve aussi que cette équipe de Lille fait une grosse saison offensive parce que défensivement c'est pas trop ça. Mais je le disais, un vrai jeu de possession, c'est la deuxième équipe du championnat avoir la plus grande possession juste derrière le Paris Saint-Germain.
Ouais, c'est fou quand même de donner cette stat. Et on parlait justement de Rennes parce que c'est l'autre bonne opération de la soirée hier avec cette victoire face à Monaco 2-0, une troisième victoire de rang qui les met aussi en très bonne position. Pour le coup, les Rennais terminent à fond cette dernière ligne droite.
trouve qu'elle est symbolique, cette victoire de Rennes, dans la mesure où eh bien les Rennais restent sur une très très bonne dynamique face à des Monégasques qui eux ont complètement explosé en plein vol. On va y venir dans un petit moment. Les Rennais sont à la place, à mon avis, qu'ils méritent, parce que vraiment ils ont fait une deuxième partie de saison intéressante. Il y a des joueurs, il y a un effectif intéressant. Bruno Genesio travaille bien. Bruno Genesio est en train de prouver si besoin était, et il l'a déjà fait bien évidemment aux supporters lyonnais, que c'est un entraîneur de Ligue 1, que c'est un bon entraîneur de Ligue 1 avec des idées, avec des préceptes, et que voilà, nul n'est prophète en son pays. Il a fallu qu'il aille à Rennes pour qu'on voit tout le talent de cet entraîneur. Mais c'est une équipe qui est en plein boom, et idem, je la vois pas bouger à la dernière journée. De toute façon, j'imagine les trois équipes dont on parle actuellement gagnantes à la dernière journée, ouais. Donc un statu quo au niveau du classement.
Ouais, c'est vrai qu'ils peuvent espérer l'Europa League en cas de faux pas de Lille, sinon ce sera la Conference League pour les Rennais. Quoi qu'il en soit, donc l'Europe, c'était une ambition de départ pour les Rennais, et elle pourrait être validée. Et là aussi, à l'image de Lille, les Rennais n'ont pas toujours su aussi saisir les opportunités quand les adversaires directs avaient un petit faux pas, et finalement, ils y parviennent au meilleur des moments.
Oui, parce qu'il y a quand même une certaine régularité dans les résultats Rennais. Il y a eu parfois des difficultés face au gros, mais c'est aussi une équipe qui a su renverser les cadors de ce championnat. C'est une équipe qui est probablement à sa place. Alors j'ai entendu ça et là que Rennes, comme Monaco, faisait partie des équipes qui devaient viser le podium à la fin de la saison. Faut aussi raison garder. Une fois que vous avez vu les budgets du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique Lyonnais, qui n'est probablement pas à sa place cette saison, nécessairement, c'est difficile d'imaginer une autre équipe que ces trois-là sur le podium. Ce sera le cas de Lens. Il y a toujours une surprise dans le championnat. Par contre, que Rennes arrive à se positionner sur la plus haute marche de ce qui est probablement son championnat, c'est mérité, et c'est méritoire surtout.
Ouais, et Rennes, on le rappelle, qui ira à Brest, déjà sauvé lors de la dernière journée. L'occasion aussi de vous rappeler qu'Éric Roy, le coach brestois, sera l'invité de l'intégrale foot à 17h40 avec Benoît Boutron. Le club qui peut se mordre les doigts dans cette course à l'Europe, c'est évidemment Monaco, tu l'as évoqué, battu par les Rennais, et qui n'est plus européen pour le moment avant la dernière journée. Ça, c'est vraiment la très mauvaise opération.
Ouais, c'est un club qui s'est désagrégé. Finalement, mon lapsus est révélateur. J'y étais il y a deux semaines à Monaco, et ce que j'ai vu, c'est une équipe qui n'y est plus, mais qui n'y est plus pas parce qu'elle ne veut pas y être, mais parce qu'elle n'en a plus les moyens. Il y a trop d'incertitudes sur ce que sera l'effectif la saison prochaine, trop d'incertitudes sur qui sera l'entraîneur la saison prochaine. On sait que Paul Mitchell va partir, il l'a annoncé, il va être remplacé par Thiago Scuro, qui est probablement un jeune homme charmant, mais qui vient du Brésil, que personne ne connaît. Et du coup, pour le moment, personne ne sait la ligne directrice de l'AS Monaco de la saison prochaine. Les joueurs ne savent pas s'ils seront là, s'ils seront souhaités, s'ils seront mis sur le marché des transferts. Résultat, ils sont en train de se saborder leur fin de saison, avec à leur tête un Philippe Clément qui, moi, me laisse un petit peu quoi, parce que ces conférences de presse sont lunaires, tristes. Il y a pas d'envie. Il récite un discours, et j'irais même jusqu'à dire, et attention, j'admire toutes les personnes qui font l'effort de s'exprimer en français quand ça n'est pas leur langue maternelle, mais qu'ils se cachent. Actuellement, il se cache derrière un français qui n'est pas naturel chez lui, pour refuser d'évoquer les vrais problèmes et nous servir une soupe qui prouve bien qu'il n'y a pas de solution à Monaco actuellement.
On va l'écouter justement, Philippe Clément, pour étayer tes propos, Timothée.
Notre destin est très clair pour ces dernières semaines. C'est donner toute l'énergie, toute la volonté pour les supporters, pour tous les gens qui sont concernés avec AS Monaco. Tout le monde, le staff, les joueurs, les supporters, la direction sont pas contents les dernières semaines que nous sommes vraiment baissés dans le classement.
Ouais, Monaco très loin des ambitions de Ligue des Champions du début de saison. Merci beaucoup Timothée pour ce point sur cette course à l'Europe en Ligue 1. L'autre gros suspense, évidemment, ce sera la course au maintien qui va rejoindre Angers, Ajaccio et Troyes en Ligue 2. C'est la grande question. Tout va se jouer entre Auxerre et Nantes. Avantage aux Auxerrois après le match nul un partout face à Toulouse, même si la GIA aurait pu invalider son maintien en cas de victoire, parce que dans le même temps, Nantes s'est une nouvelle fois incliné 2-1 sur la pelouse de Lille. David Filippo est avec nous pour en parler. Salut David.
Salut Flora, salut à tout le monde.
Alors on s'en parlait hier, c'était déjà très très chaud pour les Nantais, mais la défaite face à Lille complique encore plus les choses. Il faudrait un sacré coup de chance quand même pour qu'ils arrivent à se maintenir. David ? On a perdu David.
Si on a perdu David, c'est pas très grave parce que j'étais hier.
Je
suis là. À Lille-Nantes, j'étais prêt à te sauver.
J'étais prêt à te sauver. Merci Timothée. Mais est-ce que tu as entendu ma question, David ?
Oui, bien sûr. Alors, je t'ai parfaitement entendu.
Eh bien, parfait. On écoute ta réponse alors.
Déjà, il va falloir que le FC Nantes apprenne à gagner un match parce qu'ils n'ont pas gagné depuis. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils gagnent. Hein. On rappelle les conditions pour que le FC Nantes se maintienne en Ligue 1. Gagner contre Angers, la lanterne rouge de Ligue 1, déjà relégué évidemment en Ligue 2. Donc gagner contre Angers et ensuite il ne faut pas qu'Auxerre batte Lens. Les Auxerrois reçoivent les Lensois samedi prochain. Donc Nantes, déjà, va falloir qu'ils apprennent à gagner un match. Ils ne l'ont pas fait depuis en championnat, en tout cas depuis le 12 février. On est sur une série de 13 ou 14 matchs, je crois, sans victoire des Canaries. Et puis après, ils vont aussi s'appuyer sur ce qui s'est passé il y a quelques années. On commence beaucoup à en parler à Nantes. C'était en 2005, Flora, et il y avait eu un miracle qui s'était produit. Et crois-moi, Flora, le concours de circonstances était encore plus improbable à ce moment-là parce que les Canaries devaient gagner, c'était contre Metz, et il devait y avoir deux adversaires. Il devait regarder les résultats de deux adversaires. Il fallait que Bastia, à l'époque, fasse un nul ou une défaite à Strasbourg. Ils avaient perdu, les Bastiais, 2-0, et que Caen aille perdre du côté d'Istres, qui était déjà relégué. Et Istres avait joué le jeu à fond et avait gagné 3-2 contre Caen. Et là, ça avait été un véritable miracle. Nantes avait gagné 1-0 contre Metz dans une ambiance incandescente. Et le FC Nantes était maintenu en Ligue 1. Et je me souviens que des joueurs comme Michael Landreau, Nicolas Savino, Frédéric Darrocha avaient dit « C'est comme un titre, finalement, pour nous, ce match. » On se souvient quasiment de ce match comme un match du titre. Donc, beaucoup de gens repensent à 2005 pour se donner un petit peu d'espoir, on va dire.
Ouais, l'espoir, il est encore mince quand même, même si, et Timothée va nous le confirmer parce qu'il a commenté ce match hier. On a quand même vu un petit peu de mieux hier pour les Nantais. Un petit motif d'espoir parce que sur les derniers matchs, vraiment, il y avait presque pas d'envie, comme si on ne réalisait pas aussi l'enjeu qui était là pour les Nantais.
Ouais, je sais pas si David a eu le temps de revoir le match parce qu'il commentait hier un délicieux Angers 3, mais dans la rencontre, il y a eu d'abord une première mi-temps intelligente de la part de Nantes qui, consciente de ses faiblesses et consciente de ses rares forces, a su faire feu de tout bois, a décidé de laisser le ballon à l'adversaire, mais de jouer correctement, posément ses contre-attaques. Ils l'ont fait intelligemment. Après, ça s'est désagrégé pour une raison que j'ignore, mais ce dont je voulais parler, c'est surtout la zone mixte dans laquelle j'étais, donc le moment où les joueurs se présentent aux médias. J'ai vraiment pas trouvé de résignation. Alors je vais faire une toute petite parenthèse pour dire qu'une équipe qui perd, qui est à ça de la relégation, qui envoie 4 joueurs en zone mixte, c'est rare. Bravo au service communication du FC Nantes, c'est dit.
Alors ça, c'est juste une petite parenthèse. Ça, le FC Nantes, on se bat, nous les journalistes, pour qu'on ait toujours beaucoup, beaucoup de joueurs, puisque c'est la règle. Ouais. Les joueurs doivent passer devant les journalistes. C'est la règle.
C'est la règle, mais elle est respectée par aucun club de Ligue 1.
Exactement.
À part visiblement par le FC Nantes. Salutations. La parenthèse est refermée. Ces joueurs qui justement se sont arrêtés m'ont pas paru du tout résignés. Il y avait de la colère. Il y avait de la colère vis-à-vis du scénario, de l'arbitrage avec ce penalty qui a été à retirer. Mais il y avait de la colère, de la hargne, de la rage. C'est une équipe qui n'a pas démissionné. C'est pas des joueurs qui regardaient le bout de leurs chaussures. C'est des joueurs qui pensaient à la semaine prochaine. Pedro Chirivella avait un discours hyper volontariste. Bon, Alban Lafont était un peu dépité, mais Quentin Merlin, lui aussi, a eu un discours pour dire voilà, c'est pas un miracle qui nous attend la semaine prochaine. La semaine prochaine, faut qu'on batte le dernier du championnat. C'est à notre portée. On doit savoir le faire. On va le faire. Après, il faudra évidemment que les choses se passent dans l'autre match et on ne pourra que prier. Mais voilà, pour avoir vu des équipes qui allaient mal, je peux vous dire que Nantes, oui, va mal comptablement, mais qu'il y a un petit quelque chose, un petit supplément d'âme quand même.
Et l'avantage, David, aussi, c'est que ce sera à la Beaujoire, le dernier match face à Angers.
Et pour rebondir sur ce que dit Timothée, pour avoir des échos de l'interne, en fait, c'est assez paradoxal, mais Nantes a perdu, Auxerre a pris un point, mais on a l'impression que ça a presque reboosté un peu les Canaries, parce que il y a deux choses qui sont claires. Les Nantais, ils savent qu'ils doivent gagner devant leur public. Maintenant, c'est très clair, il n'y a pas de calcul à faire, absolument gagner. Et puis, Timothée, tu l'as dit, ils peuvent s'appuyer sur une prestation qui est quand même pas si mal face à Lille. C'était quand même pas n'importe quelle équipe en face. Il nous semble, nous les observateurs, que Pierre Aristouille a peut-être trouvé un petit peu son système en 4-3-3 avec notamment Quentin Merlin au milieu. Et puis tu l'as dit, Flora, eh bien il y aura le public qui sera derrière, comme en 2005, j'en parlais de ce miracle qui avait qui était survenu en 2005. Il y aura cette Beaujoire qui sera évidemment pleine, sauf que la tribune noire est normalement fermée à cause des fumigènes. Hein, donc la Ligue, les instances ont décidé de fermer la tribune noire. Mais le club a fait appel et il passe devant le CNOSF mercredi prochain. Le club veut se battre pour que cette tribune soit ouverte samedi et pour que le stade soit totalement plein pour emmener les Canaries vers une victoire indispensable pour le maintien.
Nantes, 11h21h, donc samedi prochain pour ce match qui va décider de l'avenir des Nantais en Ligue 1. Merci beaucoup David, merci Timothée d'être resté pour ces dernières infos sur Nantes. Un détour par la porte d'Auteuil, on va retrouver Eric Salio et Florent Serra avec ce match qui dure entre Constant Lestienne et Karine Khachanov.
Ah là, ça devient sympathique puisque Constant Lestienne vient de recoller au score dans cette cinquième manche. Deux jeux partout désormais entre Karine Khachanov et Constant Lestienne. Et c'est un petit miracle hein, parce que Constant Lestienne, depuis trois quarts d'heure, avait un petit peu disparu de la circulation. Il avait été breaké d'entrée et Flo. Hein, mais là, avec le soutien du public, on a l'impression qu'il produit peut-être un ultime effort. Je ne sais pas où il en est physiquement, mais en tout cas, il est prêt à mourir sur le court.
Et on voit qu'il abrège les échanges, on a vu une superbe amortie très bien touchée, Khachanov qui peut aussi se crisper un peu, voyant que son adversaire, bon, il joue un petit peu en marchant hein, maintenant, mais en tentant des coups avec la main qu'il a, comme on a dit, l'amortie marche. Je pense que sur la longueur, ça risque d'être un petit peu court, mais bon, vu qu'il recolle une fois, on ne sait pas quel impact ça a aussi dans la tête de Karine Khachanov.
Khachanov, il fait pas un grand match, hein, faut reconnaître, non. Donc il y a vraiment un coup à jouer, ce jeu va être important. Donc deux partout au cinquième, entre les deux joueurs. Et puis sur le central, je ne l'avais pas évoqué tout à l'heure, 2-7 à 0 pour Stefano Tsitsipas, 7-5, 6-3 face à Iri, Vezeli et Khachanov qui commet une faute une fois de plus. Attention, il se met en danger le russe avec le public qui devient fou. Ça peut devenir dangereux pour Karine Khachanov qui a le visage vraiment des mauvais jours. Donc de partout, 0-15 sur service de Khachanov.
Ça va être passionnant. Rendez-vous sur l'appli RMC 100% terre battue, la radio digitale d'RMC, l'application RMC pour écouter évidemment les commentaires en intégralité, les dernières infos, les résultats et les interviews. 14h29 sur RMC, l'Intégral Sport revient tout de suite. On va parler du Giro, la dernière étape du Tour d'Italie.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi. 14h31, 32, même 33 bientôt. Le temps passe vite sur RMC. On va retourner à Roland-Garros dans quelques instants. On va vous parler du Giro aussi, la dernière étape aujourd'hui pour la conclusion de ce Tour d'Italie. Mais d'abord sur RMC, c'est l'heure du défi épique.
RMC.
Le défi épique.
Avec Dimitri Blanc-L'œil aujourd'hui. Salut Dimitri.
Salut Flora, bonjour à tous. Le défi épique, c'est parti effectivement. Direction Saint-Cloud aujourd'hui pour le quintet du jour. 15h15, Flora, 1400 mètres qui vont nous intéresser. Et pour me défier au 32-16, c'est Laurent qui vient nous rejoindre. Salut Laurent.
Salut à tous.
Laurent, bienvenue sur RMC. Alors, tu as choisi qui dans le quintet du jour, toi?
J'ai choisi le 2, Axavali.
Alors, est-ce que tu as un argument à nous donner?
Comment?
Non, je disais, vas-y, on t'écoute pour l'argument. Pourquoi le numéro 2?
Pourquoi ce numéro 2? Déjà, la corde est très bonne pour un bon terrain comme on a aujourd'hui à Saint-Cloud. Le jeu qu'elle connaît, la distance va lui être comme un grand. Il va pouvoir attendre tranquillement derrière les leaders. Et je pense qu'il va être à point de finir dans les 3, voire peut-être mieux pour lui.
Eh bien, écoute, parfait. Moi, j'ai choisi le numéro 1, Titanium. On a eu son entraîneur hier dans les courses RMC, Alessandro Botti, qui avait une certaine confiance quant à son partenaire. Il se voit en tout cas jouer les premières places. Alors, je tente le coup dans cette épreuve. Je pars sur le numéro 1, Titanium. Toi, c'est le numéro 2. Je rappelle la règle. Si ton numéro 2 termine devant le numéro 1 dans le quintet du jour, 15h15, tout à l'heure, sur RMC, justement, commenté en direct, ben, écoute, tu reviendras une nouvelle fois demain et tu augmentes ta cagnotte. Bonne chance à toi, Laurent, et peut-être à demain.
PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci beaucoup Dimitri. Aujourd'hui, c'est la conclusion de trois semaines intenses sur les routes d'Italie. La conclusion du Giro, c'est tout à l'heure sur les coups de 18h30 dans les rues de Rome. Un invité sera avec nous, Sébastien Joly, le directeur sportif de la Groupama FDJ, pour faire le bilan et nous parler notamment de Thibaut Pinot. Mais d'abord, on va faire le bilan plus général de ce Tour d'Italie avec Johan Bredov. Salut Johan.
Salut Flora, salut à tous.
Un Giro plein de surprises. Et ça avait commencé d'abord avec l'abandon d'Evenepoel qui avait jusque-là assommé en plus la concurrence, notamment sur les chronos.
Bah, il les a remportés, en fait. Les deux chronos auxquels il a participé, la première étape et celui de la neuvième étape, c'est d'ailleurs au soir hein, de cette seconde victoire où il reprend la tête du classement général, qu'il est testé positif au Covid par son équipe et obligé de quitter la course. Mais il n'était pas imbattable, hein, Evenepoel. Il n'était pas parvenu à suivre Goyenart, Thomas et Primoz Roglic quand la route s'est élevée. Les trois lui avaient repris 14 secondes dans une étape sans grosses ascensions. Donc ouais, on aurait aimé voir ce que ça allait donner en montagne et s'il aurait pu conserver ses 45 secondes d'avance.
Oui, on est un peu déçu quand même, Johan, parce que nous, on attendait avec impatience ce duel annoncé avec Roglic et finalement, on l'a pas vraiment eu.
Ouais, on l'avait présenté comme ça, ce Giro, si tu te rappelles, il y a trois semaines, un duel entre Roglic et Evenepoel. Et en 9 étapes, le Belge avait pris l'avantage, hein, grâce au chrono, on vient d'en parler, mais on sentait que ça pouvait tourner quand même. Comme je vous le disais, hein, le Slovène était au-dessus, notamment en montagne, puis il est monté en puissance au fil de ces trois semaines et on l'a vu hier en fait, il l'a prouvé avec ce chrono dantesque et exceptionnel sa performance.
Ouais, justement, on a envie de revenir parce que tout s'est joué quand même sur ce chrono, presque tout s'est joué finalement dans ce Giro sur les chronos, quelque part, et on a eu peur pour Primoz Roglic hier jusqu'au bout avec ce contre-la-montre dantesque en montagne et finalement il a réussi quand même un exploit incroyable.
On a eu très peur même pour Primoz Roglic, on avait les écarts en direct, hein. On savait que Roglic était en train de refaire son retard sur Geraint Thomas, qu'on était déjà en train d'assister à un exploit remarquable. Et là, à 2 km de l'arrivée, le saut de chaîne, terrible. Roglic obligé de descendre de son vélo, de remettre la chaîne et de repartir en pleine montée. Une montée à des pourcentages 15%. Hein. Donc il a été aidé par un membre de son équipe, mais aussi par un spectateur qui a couru pour le pousser et qui l'a aidé. Donc il va le remercier bien comme il faut, ce spectateur. Terrible pour lui, mais il était tellement fort, en fait, Primoz Roglic, que même ça l'a pas empêché de refaire son retard. Ça rappelle un petit peu ce qu'avait fait Pogacar, d'ailleurs, Tour de France 2020, justement face à Primoz Roglic. Pogacar qui avait 57 secondes de retard et qui colle presque 2 minutes à Roglic. Donc voilà, il a retenu tout ça, le maillot rose de ce Giro. Il a retenu cette mésaventure d'il y a 3 ans et s'en est servi pour aller chercher donc ce Giro 2023.
Ouais, il joue souvent de malchance aussi, hein, le Slovène. C'est pour ça qu'on disait qu'on avait eu peur pour lui. Il a brillé plusieurs fois sur la Vuelta. Là, il va s'imposer pour la première fois sur le Tour d'Italie. Et on l'attend maintenant. Bah sur le Tour de France, évidemment.
Ouais, ça sera pas cette année, évidemment. Il se concentre sur la Volta. C'est très compliqué d'enchaîner le Giro et le Tour de France. Maintenant, de là à remporter le Tour de France, ça sera beaucoup plus difficile. La concurrence, elle est beaucoup plus rude. Déjà, au sein même de sa propre équipe, hein, la Jumbo-Visma, le leader pour la grande boucle, c'est Jonas Vingegaard. Puis il y a aussi, surtout, Tadej Pogacar, qui est le meilleur coureur du monde, qui a envie d'exploser les records, qui va s'aligner tous les ans sur le Tour de France. Il y a aussi l'âge, qui ne parle pas pour Roglic, il va avoir 34 ans en octobre.
Et oui, mine de rien, j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, mais il est jeune, Roglic, non? Et en fait, non.
34 ans.
Pas assez jeune,
déjà.
Hein, 34 ans, on ne dit pas ça.
Bah, bien sûr, mais on va en reparler. J'imagine 34 ans en octobre, alors que Pogacar et Vingegaard vont avoir respectivement 25 et 27 ans. Donc voilà, ils sont beaucoup plus jeunes.
Pas la même génération.
Mais oui, mais puis on a vu avec certains coureurs de ce Giro que l'âge n'est pas un problème.
L'expérience finalement, parce que l'invité surprise c'est quand même Geraint Thomas, qu'on attendait pas forcément à ce niveau-là sur ce Giro.
Ouais, on savait que c'était un candidat sérieux pour le podium, mais pour la troisième place. On l'a dit, on s'attendait à un duel entre Primoz Roglic et Remco Evenepoel et on s'attendait à un petit peu au même scénario que lors du dernier Tour de France. Hein. Thomas qui termine troisième, mais il est à 7 minutes de Vingegaard. Donc voilà, il était jamais dans le coup pour la victoire finale. Là, sur ce Giro, il a fait beaucoup mieux que ça. Il a tenu la dragée haute à Evenepoel sur le deuxième contre-la-montre avec une seule seconde de retard. Il avait aussi repris du temps au Belge, hein, la veille avec Roglic et Gegenhardt. Il était maillot rose avant le chrono d'hier, mais voilà, il a complètement craqué dans les derniers hectomètres, victime d'une défaillance physique. Ça reste tout de même un Giro très réussi pour le Britannique, qui va échouer à seulement 14 secondes donc de Primoz Roglic.
Oui, c'est ce que j'allais dire quand même, perdre un grand tour pour lui qui a souvent été présent de toute façon sur les grands tours. Geraint Thomas, on a souvent entendu son nom, on l'a souvent vu placé, et là il avait presque une occasion en or, presque la dernière occasion même de sa carrière pour remporter un grand tour.
Ouais, c'est possible que c'était la dernière occasion, et il y avait ce forfait de Remco Evenepoel, donc les éléments c'était les planètes s'étaient alignées. Je vous l'ai dit, le Tour de France, ça sera très compliqué pour Geraint Thomas. On l'a vu la saison dernière finir à 7 minutes quand même. C'est très dur pour lui. Peut-être une Vuelta, mais les ascensions sont pas assez longues. Lui, il lui faut vraiment un grand tour où il y a beaucoup de chronos, où il peut gagner du temps comme ça. Maintenant, voilà, il fait deuxième, 14 secondes. On sait jamais, il va peut-être tenter le coup du dernier kilomètre là tout à l'heure à Rome, lui l'ancien pistard. On espère voir ça. Hein. Pour moi, une 21e étape, ça reste une étape comme les autres. Et si on peut aller chercher la victoire finale à Rome, faut y aller. Mais bon, on sait que ça va être compliqué. La Jumbo va pas se laisser avoir comme ça. Donc voilà, très 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 bon tour pour Geraint Thomas, mais aussi très frustrant.
Merci beaucoup, Johan. Tu seras évidemment en commentaire sur AMC tout à l'heure de cette dernière étape, arrivée dans les rues de Rome sur les coups 18h30, 18h50 à peu près pour l'arrivée. Un invité de marque avec nous, Sébastien Joly, le directeur sportif de la Groupama FDJ est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Un Tour d'Italie qui se termine pour vous, et on imagine quand même que vous êtes un homme heureux avec les performances de votre équipe. On va y revenir en détail, mais quel bilan vous tirez-vous de ce Tour d'Italie ?
Un très bon bilan avec Thibaut, cinquième du général, deuxième d'une étape, meilleur grimpeur, Bruno deux jours en roue, deuxième du classement général aujourd'hui, donc voilà, c'est un très bon bilan. Bien évidemment, il ne manque que une victoire pour Thibaut, mais ça, après, on refait pas l'histoire et déjà, il a monté un comportement exemplaire et offensif et je pense que rien que ça, déjà, ça permet d'être satisfait de son Giro et puis surtout, qui est vraiment marquant déjà depuis le début d'année et encore plus sur ce Giro, c'était cette sérénité qu'il avait tout au long de la course et ça, je crois que c'est pour moi le plus grand enseignement. Voilà. Il n'a pas manqué grand chose, mais l'objectif d'un bon classement général en étant dans le top 5
Ouais, dernier tour d'Italie pour Thibaut Pinot, maillot bleu du meilleur grimpeur, deuxième place sur l'une des étapes les plus dures, une cinquième place au général. Il y a eu beaucoup d'émotions, on imagine, aussi pour lui et pour vous dans l'équipe.
Oui, par deux fois, on a vécu des moments compliqués. Dans un premier temps, suite à son coup de froid, où là, il a fallu prendre un peu de recul et se dire qu'on avait la chance d'avoir simplement un chrono le lendemain matin et une repos qui nous attendait. Donc, ça nous a permis d'avoir deux jours presque de repos. Il avait pris le parti de passer une reconnaissance sous la pluie le lendemain matin, ce qui a permis de faire vraiment d'optimiser à ce niveau-là. Et puis après, pareil, sa petite tension physique au niveau musculaire et sa performance sur la première grosse étape de mental, il faut jouer avec les leaders. Pareil, ça n'a pas été facile, mais tout aussi quand un travail incroyable derrière pour justement faire en sorte de meilleures sensations. Donc voilà. Ça a été un pari gagnant.
Et forcément, maintenant, hein, Sébastien, tout le monde a le Tour de France en ligne de mire. Alors, vous n'êtes pas le boss, hein, Marc Madiot, mais est-ce que, selon vous, il faut prendre Thibaut Pinot sur la grande boucle?
Ah, vous imaginez bien que ce n'est pas à moi de me prononcer pour le sujet. Il y a des discussions actuellement. Thibaut, lui, en a envie, mais il a surtout besoin de récupérer. Ce qui est sûr, c'est qu'on prend Marc, qui lui a dit qu'il donnerait une réponse rapidement pour que justement, ils puissent bien se préparer ou en l'occurrence bien récupérer. Donc voilà, pour vraiment, il y a des discussions, mais ce n'est pas d'actualité. On va déjà se concentrer sur cette fin de Giro et cette belle étape romaine.
Merci beaucoup, Sébastien Joly, d'avoir été avec nous et bon courage justement pour cette dernière étape qu'on suivra sur RMC. Merci beaucoup. Un détour par Roland Garros maintenant avec ce match qui n'en finit plus. Hein. Éric Salio, Florent Serra entre Constant Lestienne et Karen Khachanov parce qu'il lâche pas le français. Hein.
Ah, c'est un match finalement incroyable qui a pris une dimension totalement dingue puisqu'on est à 3h30 de combat et Khachanov mène 4 jeux à 3 dans le 5e set, mais il n'y a pas de break.
Il n'y a plus de break
pour être exact. Et Constant Lestienne tout à l'heure a renversé un jeu incroyable. Il était mené 0-40, il a aligné 5 points consécutifs dans une ambiance complètement folle. Maintenant, est-ce qu'il a les moyens, Flo, d'arracher la victoire face aux Russes? Ça, c'est une autre question.
Je vous aurais dit que physiquement, non, il y a encore peut-être une heure, mais là, on rentre plus dans une dimension psychologique parce qu'on voit que Khachanov est un peu perdu aussi sur le terrain. Il fait des grosses fautes, le rythme est cassé, il lui fait des amortis, des accélérations. Donc, c'est plus encore une fois que le physique, si le mollet tient le coup, c'est plus la dimension psychologique et on voit que le Khachanov est vraiment gêné par le jeu de Constant Lestienne. Donc, on va voir s'il arrive à le faire sortir encore de son confort. Ça serait bien de le faire sur 3-4 jeux là et puis d'aller chercher un éventuel super tie-break. Après, tout peut arriver, Eric.
Super tie-break, c'est premier à 10 points puisque c'est maintenant la règle dans tous les grands chelems. Là, ce serait un suspense ébouriffant sur le Lenglen qui est plein à craquer avec la nouvelle configuration du Lenglen. Vous voyez peut-être, si vous regardez la télévision, des zones d'ombre. C'est à cause du toit qui est en construction, qui sera prêt pour l'édition prochaine et bien sûr les Jeux Olympiques.
Voilà, cela dit, là, il y a plus de bonne bande d'ombre. Hein. Oui, c'était plutôt le matin.
Merci beaucoup, Eric. Et Flo, on vous retrouve évidemment toute la journée sur RMC pour le point sur les matchs des Français et des favoris, évidemment, en cours. Et puis, sinon, rendez-vous sur l'application RMC avec notre radio digitale RMC 100% terre battue pour les commentaires en intégralité, les résultats et les dernières infos. 13h45 sur RMC. L'Intégral Sport revient tout de suite. On va parler Formule 1 avec le Grand Prix de Monaco qui arrive à 15h.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. 13h46 sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'intégral. 14h46, je vais pas y arriver aujourd'hui. C'est Jean-Luc Roy qui est à côté de moi et qui me perturbe.
C'est décalage horaire, c'est normal.
Mais pourtant, on est qu'à Monaco en Formule 1 aujourd'hui. Il n'y a pas de décalage horaire. Jean-Luc, merci d'être avec nous. On va suivre tout à l'heure à 15h le Grand Prix de Monaco. Événement mythique, évidemment, de la saison de Formule 1. Avec, encore une fois, Jean-Luc, on a vécu une séance de qualification hier assez folle. Est-ce qu'il faut s'attendre à autant de spectacles aujourd'hui pour le Grand Prix ?
Bah écoute, on espère évidemment chaudement, parce qu'effectivement celle-là, elle était magnifique. Là, il y a rien à dire. On a même vu Esteban Ocon détenir la pole aux alentours de 2 minutes avant le baisser du drapeau à damier. Ensuite, Charles Leclerc à un moment était en pole lui aussi, et puis évidemment Fernando Alonso et c'est Verstappen qui sur le fil, c'est le cas de le dire, est parvenu avec un chrono de 1:11.365. Mais c'est rien, un souffle, puisque Alonso est en 1:11.449. La grille est extrêmement serrée. Esteban n'est pas loin. Alors, il avait initialement le quatrième temps, mais on sait que donc Charles oui. Leclerc a été frappé par une pénalité. Donc, honnêtement, il y a des raisons de s'enthousiasmer. Déjà, la première, c'est avant le fameux virage de Sainte-Dévote, qui n'est qu'à petit 300 mètres de la grille de départ. C'est très peu. Selon les choix de pneumatique, est-ce que Fernando Alonso va être en mesure de devancer Verstappen? Ça, ce serait la garantie d'un Grand Prix formidable. Et puis, on attend une remontée de Charles Leclerc, on l'a dit. On attend une belle course d'Esteban Ocon. On attend une remontée, je déroule la grille de Stroll qui part 14e avec la même voiture. Évidemment, l'Aston, il a reconnu avoir fait une erreur, mais il vaut mieux que ça. Et puis surtout Perez qui part dernier.
Qui avait fait une erreur évidemment dans la Q1 hier. Alors Max Verstappen en pole, on a coutume de dire à Monaco que quand on est en pole, on gagne. On a coutume de dire aussi que quand Max Verstappen est en pole, il gagne. Du coup, je te donne 2 minutes, Jean-Luc, pour nous vendre du suspense dans ce Grand Prix.
Ah ben déjà, je vais reprendre justement les derniers vainqueurs et te dire d'où ils sont partis. Sergio Pérez, l'an dernier, s'impose. Bon, certes, il pleuvait, il a plu, mais il était parti 3e. Il gagne. Il n'était pas en pole. Et il y a 2 ans, Max Verstappen était parti 2e. Il gagne. Alors bon, je concède avant, Hamilton, il gagne en 2019, il était en pole. Ricardo gagne en 2018, il est en pole. Mais si on continue, Vettel part 2e, il gagne l'année précédente. Hamilton part 3e, il gagne en 2016. Tu vois que c'est pas toujours. Et Nico Rosberg gagne en 2015, il était parti 2e. Donc non.
Mais c'est pour ça qu'on te fait venir, Jean-Luc.
Et ben voilà. Écoute, il faut bien trouver. Et puis bon, je ne peux pas éviter. Au contraire, Olivier Panis, hein, oui. 96, il part 14e avec une course de folie, justement, et il gagne. Donc, c'est possible à Monaco.
Donc, tu me dis que Esteban Ocon, 3e aujourd'hui, peut nous faire quelque chose de dingue.
Ah ben, déjà, au moins monter sur le podium, c'est vraiment ce qu'on attend. Mais voire mieux, parce que je te laisse imaginer si les deux devant se frictionnent quelque part, soit à Sainte-Dévote, soit un peu plus loin, et qu'Esteban passe au milieu des carcasses fumantes, non j'exagère, mais des débris, et qu'il se retrouve
ça,
en
face,
on peut
film.
Tout imaginer. Mais oui, donc sincèrement, non, la grille contient suffisamment d'éléments passionnants pour se dire, et je l'espère, alors évidemment si Verstappen part devant, tu vas me dire, bah oui, c'est le meilleur dans la meilleure voiture, donc effectivement, ça risque, mais tu sais...
Mais sur ce circuit-là, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses.
Voilà, je rappelais ce matin dans les GG du sport, Ayrton Senna lui-même, 6 fois vainqueur, hein, le cador le prince de Monaco, Albert ne m'en voudra pas, je me permets de l'appeler comme ça parce que je le connais très bien depuis les Dakar du milieu des années 80.
Bien sûr.
Tu vois, ça nous rajeunit pas. Donc bref, j'en reviens à Ayrton qui commet en 88 une erreur d'orgueil alors qu'il est en tête avec plus de 50 secondes d'avance avec la McLaren sur Alain Prost. Et dans le virage du portier, comme Alain Prost, malin, a établi le meilleur tour en course, Ayrton veut établir aussi le meilleur tour en course et il commet une erreur. Il accroche le rail, il termine là au portier et il rentre dans son appart et personne ne le voit pendant 2 jours tellement il est
tellement
vexé.
Énervé.
Donc, tout peut arriver à Monaco.
Ben c'est parfait, ça. Tu nous as parfaitement présenté le Grand Prix de Monaco qui vous attend évidemment sur RMC. Le départ, c'est à 15h avec évidemment Jean-Luc au commentaire, avec Denis Chevrier, avec Simon Dutin qui sera à la baguette dans quelques instants. Roland Garros, il s'en passe des choses. Eric Salio, Florent Serra dans ce match entre Constant Lestienne et Karen Khachanov.
Et malheureusement, 5 jeux à 3 pour Karen Khachanov. Il vient de breaker à l'instant Constant Lestienne, qui s'est pourtant battu comme un fou sur son jeu de service, mais il a fini par craquer. Donc 3h38, 5-3 Khachanov qui va servir pour le match.
Suspense total. Vous aurez le résultat évidemment dans quelques instants dans l'Intégral Sport sur AMC. Il est 14h51. Restez bien avec nous. Simon Dutin vous attend pour le départ du tant attendu Grand Prix de Monaco et la suite évidemment de tous les matchs à Roland-Garros et les résultats des Français. À tout de suite sur AMC.